I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bienvenue les gars, bienvenue à un bon moment.
Bonjour.
Bonjour.
Déjà, beaucoup d'énergie dès le départ. Ouais.
Bienvenue les gars, bienvenue à un bon moment. Comment ça va les gars, vous allez
ça
bien?
Ça va très très bien.
Je suis accompagné de mon pote Navo comme toujours.
Salut.
Salut Navo.
Bonjour Navo.
C'est moi.
Et en face de nous aujourd'hui, on a Roman Fraissinet et Ahmed Sparrow.
Yes.
Yes. Auto-applaudissement les gars, auto-applaudissement. Ouais, bravo, auto-applaudissement. Vas-y, attends, vas-y, fais voir, fais-le tout seul Roman. Genre. Et on a Roman Fraissinet. Exactement. Et Ahmed Sparrow. Ahmed, il avait.
Ah, moi, je me kiffe plus.
Ouais. Plus comme un mec mystérieux qui applaudit. Tu sais, comme un méchant qui applaudit dans un genre. Bravo!
De l'ombre.
Ouais, c'est ça, exactement.
Ou alors la scène de film où il y a eu un speech de. Mais on devrait tous être des amis! Et là, il y a un mec qui sort de la foule. Sauf que personne ne suit.
Souvent, lui, c'est. Ouais, je vois de quel personnage tu parles.
Le slow clap. Le slow clap. C'est un acteur qui a été casté. C'est celui qui fait le mieux la tête, c'est de.
C'est sûr, il a été casté. À un moment donné, il faut le choisir, c'est sûr.
Bah ouais.
Bon, comment ça va, les gars ?
Ça va très bien.
Ça va très bien, très heureux.
Comment
d'être
on aborde
ici.
L'hiver ?
Oh là là. Ça va très vite cette année.
Je crois qu'on m'a jamais posé cette question.
Mais moi, t'as pas ce truc d'adulte maintenant où tu te dis putain, je me sens pas bien. Ah, c'est l'hiver. Tu vois, avant, quand on était gamin, on s'en battait les couilles. Mais maintenant, tu te dis ah, l'hiver.
Bah, moi, je suis un adulte, mais comme j'ai une vie de merde. Parce que tu sais, pareil. Il y a des y en a, ils se posent des questions sur le travail, les grèves, les transports. Je prends pas les transports. J'ai l'impression de pas travailler. C'est-à-dire, je me pose pas ces questions d'adulte de comment j'aborde l'hiver. La question que je me pose, c'est si Marseille la cote à 2 avant.
Il va marquer Benedetto.
Il va marquer Benedetto ou pas? C'est ça la question que je me pose.
Benedetto, c'est un joueur, c'est ça. C'est pas une marque de vêtements, c'est ça.
Moi, ça me le fait.
C'est pas une marque de chocolat low cost.
Ça me le fait, moi, le truc de l'hiver.
Ça te le fait, ça, maintenant ?
Ça me le fait de...
Mais ça te le faisait avant ou pas ?
Ouais, tout le temps.
Ah, d'accord.
Ça me le faisait déjà, après Montréal, beaucoup, en fait.
Mais à 14 ans, ça te le faisait ou pas ? Quand tu faisais des foot dans la rue, t'en battais les couilles ?
Si, quand même. Ça arrivait que l'hiver arrive et je me disais, ah, cette période-là, il y a trop de temps pour penser et tout, ça fait déprimer. Mais là, heureusement, là, j'ai l'impression, cette année-là, je ne l'ai pas vu. On est arrivé en décembre, j'ai cligné des yeux. Bah,
ouais, c'est vrai que ça allait vite. Mais ça, de plus en plus vite, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment...
J'ai l'impression que l'hiver, il vient de plus en plus tard, surtout.
Tu crois que c'est réchauffement climatique ?
Il n'y a plus de saison, c'est ça que vous voulez dire ?
Ouais, je crois.
Les gars, il n'y a plus de saison. Hein.
Moi, je pense que c'est plus...
Je pense qu'il n'y a plus de saison. De toute façon, c'est plus comme avant, maintenant.
Ouais, ça a changé.
Ah, c'est vieux, maintenant, c'est vrai. Mais de toute façon, les jeunes, ils sont fous. Maintenant. Ils sont là, ils toutouent leur téléphone et tout. C'est des fous, les jeunes.
Moi, la musique, je ne comprends pas, de toute façon.
Voilà, c'est quoi, du rap ? Oh là là, n'importe quoi. Je ne comprends pas les paroles. Avant, il y avait des vrais chanteurs.
Mais c'est pas du rap, ça. Moi, j'ai connu le vrai rap. C'est des vrais vieux.
Les vrais vieux.
Je crois qu'ils sont jeunes parce qu'ils disent rap.
J'ai connu le vrai rap. MC Solar.
Benny B.
Benny B.
Bon les gars, j'avais envie qu'on parle un peu de stand-up. On fait tous les quatre même du stand-up. Navo, c'est plus t'es stand-upper Navo ou pas? T'es plus un mec qui fait du stand-up pour faire plaisir à son pote qui fait du stand-up.
Ouais, mais du coup ça fait que je fais du stand-up.
Yes.
Hein.
T'es plus auteur
c'est
de stand-up.
Pareil, ouais, c'est pareil pour la baise. Hein, je fais ça pour faire plaisir aux autres, mais ça fait de moi un sacré baiser.
on a commencé le stand-up il y a à peu près 13-15 ans. Vous, ça fait un peu moins longtemps. J'aimerais savoir c'est quoi ce qui a été le déclencheur pour commencer l'humour ? Parce que je reçois beaucoup cette question, moi, sur Internet. Les gens me disent « Ouais, je veux me lancer. Comment on fait pour se lancer dans l'humour ? J'aimerais savoir les trucs, les astuces et tout. » Moi, j'ai eu un déclencheur et après, je m'y suis mis. Tu vois, je ne me suis pas posé de questions. Je suis venu à Paris, je me suis mis. Moi, je sais que j'avais vu le spectacle de Franck Dubosc. Je me suis dit « Il était au Zénith et tout de Paris. »
Je ne vous ai pas raconté.
Je ne vous ai pas raconté, ouais. Je dis « Mais il a commencé un jour, ce gars. Il y a bien un moment donné, il n'est jamais monté sur scène. Et puis, il est monté sur scène, il a fait du one man, tu vois. » Et ça m'avait fasciné par ça. Je me dis, bah, du coup, je vais monter sur scène et je vais y aller. Vous, c'était quoi le déclencheur, Roman ? C'était quoi ton déclencheur ?
Moi, c'est l'envie de le faire, elle date depuis très, très longtemps.
Ça, c'est sûr.
Le fait que je vais essayer à un moment donné, elle date depuis longtemps. Mais le jour où je me dis, vas-y, je le fais, c'est Montréal.
T'es à Montréal ouais, ou tu, dois, là, tu dis je vais à Montréal?
Non, je suis à Montréal, je suis assistant de production pour le festival Juste pour rire. Donc déjà...
Tu baignes dedans.
Je veux voir ce qui se passe, je veux voir les blagues et tout. Et là, je me dis, vas-y, quand je rentre, je fais quelque chose. Et je croise Baptiste, le Caplain, et je lui demande où est-ce que je peux jouer. Il me donne trois endroits. Et dès ce moment-là, je me mets à écrire.
Donc t'as pris rendez-vous, genre t'es un mardi, tu dis samedi, je monte sur scène.
Ouais, après j'ai envoyé un mail aux trois qui m'a donné... J'ai dit, je veux jouer chez vous. Ils m'ont donné une date, j'y suis allé. Ouais.
Et t'es monté sur scène. Ça t'a dit, ok, j'y vais. Quoi.
J'ai dit, j'y vais.
Et t'avais 5 minutes que tu avais des textes que t'avais déjà depuis longtemps. Tu dis, ils sont là ou tu t'es dit, je vais écrire pour l'occasion?
Je vais écrire pour l'occasion.
Ah ouais, donc c'est couillu quand même.
Mais en fait, j'écrivais déjà, j'avais plein de notes où je me disais, je savais pas quoi en faire et tout. Et je me suis dit, bon, admettons. Et je m'étais mis à réfléchir à toutes les blagues que je faisais dans la vie. Parce qu'avant que tu commences à monter sur scène, je sais pas si vous étiez comme ça, mais en fait, la scène, elle était tout le temps là. C'est-à-dire que moi, à chaque fois qu'il y avait des gens qui étaient prêts à m'écouter, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas au courant, mais à ce moment-là, ils devenaient du public, en fait.
Ouais.
C'est après que je me suis mis à réaliser que les gens aussi, ils avaient une vie et qu'ils pouvaient parler. Mais avant
T'étais le collègue qui faisait des blagues?
Ah, moi, j'aimais trop.
Alors,
ça.
Écoute-moi, tu sais, c'est le collègue que tout le monde dit. Ah, lui, il est super marrant.
Ah, il est marrant.
Ah, lui, il est super marrant. Ah, il faut qu'il fasse du spectacle. Ah, il est vraiment.
Il faudrait qu'il monte sur scène. Hein.
Alors que moi, j'ai l'impression que des fois, c'est l'inverse. Des fois, on ne se doutait pas, mais il est devenu artiste. Généralement, toi, c'est un peu l'inverse, des fois. Ça peut être l'inverse.
C'est vrai.
Et toi, Ahmed, c'était quoi ton déclencheur? Parce que là, c'est le moment où tu t'es dit, ça y est, c'est maintenant.
Moi, rien.
Parce que le fantasme, il y a beaucoup de gens qui l'ont, mais le déclencheur, il y a peu de gens qui l'ont.
Moi, je pense que inconsciemment, j'ai toujours voulu faire ça, mais je n'y serais jamais arrivé si j'avais pas fait. J'ai fait une école de comédie musicale.
Ouais.
Et du coup, c'est mes premiers pas sur scène, c'est dans cette école. Et je pense que le déclencheur, il s'est fait là.
Le laboratoire, quoi.
Ouais. Je pense que si je fais pas cette école, jamais je monte sur scène. Parce que d'où j'étais, où j'ai grandi, j'avais aucun lien avec la scène, aucun contact avec la scène, aucune approche possible pour moi, c'était beaucoup trop loin. Ouais. Et du coup, quand je suis arrivé dans l'école à Paris, là, du coup, c'est ça qui a. J'ai fait une année, et à la fin de l'année, j'ai dit, non, en fait, j'ai pas envie de chanter, je veux écrire des blagues. Bon. Et j'ai écrit des blagues.
Mais c'est marrant, c'est-à-dire que t'as pas eu ce truc où, à un moment, beaucoup de gens disaient que Jamel, il avait grave ouvert les esprits des gens, parce qu'il avait dit à tous les mecs qui vivent pas à Paris. Toutes les meufs, vous pouvez monter sur scène. Même là, tu te disais pas, c'est possible pour moi?
Si, mais je connaissais rien. Comme je t'ai dit, l'école de comédie musicale est à Paris. Moi, j'ai grandi en banlieue. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais pour moi, Paris, c'était loin. La Tour Eiffel, je suis jamais monté dedans, tu vois. Pour moi, c'était beaucoup trop loin. Arrivé dans cette école, je me suis renseigné un peu. J'ai vu qu'il y avait des scènes ouvertes qui offraient à des jeunes la possibilité de pouvoir jouer. Et c'est là que j'ai dit, voilà.
C'était quelle scène ouverte?
Le saut gymnase.
Ah, le saut gymnase, ouais. Quatrième étage, là, dans le danseur étage, de le
pigeonnier. T'es arrivé, fatigué.
C'est vrai que t'es fatigué. Les marches sont tellement dures.
Du coup, tu bidais.
T'es arrivé essoufflé. Bonjour. Le essoufflé Comedy Club.
C'est pas ce que vous croyez.
Le Ventoline Comedy Club.
Voilà, exactement.
Toi, c'était où vos premières?
Moi, c'était... ça faisait 2 ans que j'écrivais dans le bureau. J'étais hôte d'accueil dans un centre d'affaires et j'écrivais tous les jours des textes. Mais de manière totalement... Déjà, je me faisais chier. J'avais juste un ordinateur. Il n'y avait pas Internet, il y avait juste un bloc-notes. Donc j'avais juste un bloc-notes sur l'ordinateur, le reste c'était tout quoi. Et j'avais un téléphone et je pouvais appeler que les banquiers. Donc c'était nul, tu vois, j'avais pas de banquier, donc j'écrivais des trucs. Et à force, je me suis retrouvé avec, je sais pas, 15-20 pinges de blagues. Et je dis pinges,
des pinges
de blagues. C'est des pinges, c'est comme des pintes, mais des pinges de blagues. Et j'avais plein de trucs et je me dis putain, j'aimerais faire un truc. Et un jour j'étais dans le métro et j'écrivais encore tous les jours dans le métro aussi. Et je me dis putain, j'avais cette blague, c'était... On m'a dit que dans la vie, pour réussir, il fallait être un bel enculé. Alors, j'ai longtemps hésité entre comédien et avocat. Je me suis rendu compte que pour être un bon avocat, il fallait être un bon comédien. Donc aujourd'hui, je suis devenu comédien, j'ai un bon avocat. Et croyez-moi, c'est un bel enculé. Et c'était une vanne qui marchait implacablement parce que c'est un passe-passe, en fait. Donc, les gens font « bon, ça doit être drôle » parce que vraiment...
On s'est perdu, mais si ouais, on s'est
perdu,
ça,
mais visiblement, c'est que ça doit être bon. Quoi.
Il a quand même pas fait une phrase comme ça qui veut rien dire.
Il a dit plein de fois les mêmes mots, mais pas dans le même ordre.
Il a de la plonge, garçon. C'est forcément qu'il a raison.
Ah ouais, mais je pense que ça pourrait marcher en passant mettre des douilles comme ça aux gens. Ou au final, ça veut rien dire. Et les gens, ils se disent « non, mais si, c'est technique. »
Et ça a été mon courage. Je me suis dit « oh, j'ai ma première blague, ça y est. Après, on verra. » Et j'avais ma première blague. Et après, ma deuxième blague, c'était « j'ai fait des études de droit pendant 3 ans. Et un jour, en CE2, j'ai tout arrêté. » C'était ma deuxième blague, tu vois. Et je me dis, c'est bon, j'ai 2 blagues. Allez, je monte, c'est bon, j'y vais. Et ça a été le déclencheur. Je suis allé m'inscrire au Field tous les dimanches soirs.
Bonjour, j'ai 2 blagues.
Bonjour,
bon, écoute, ça va te prendre 20 secondes. Tu peux monter.
Non, mais j'avais 5 minutes et j'y suis allé.
Ils l'ont dit, mais c'est largement suffisant.
Au Field. Attends, 2 bonnes blagues.
Ici, ah ben, bienvenue au Field.
C'est largement suffisant.
Allez, d'enfoiré.
Et on se met.
Attends, t'es en train de nous dire que t'as une heure?
Gros bisous au Field.
On s'embrasse très fort parce que c'est vraiment la scène qui m'a permis de commencer. Non, mais c'est vrai que des fois, il y a des passages, il y a des gars, ils se lancent, pour expliquer un peu aux gens, c'est une scène ouverte. C'est-à-dire que tout le monde peut s'inscrire et passer. Et c'est vrai que des fois, il y a ce qu'on appelle des prises d'otages, où il y a un mec qui monte sur scène et il a que dalle à part crier, faire Aaah! Et tout le monde se regarde, genre, j'ai le frisson de la honte dans le dos. Et c'est horrible. Donc il y a des braquages.
Moi, c'est parmi les meilleurs souvenirs, je pense, de commencer dans ce truc-là. C'est que tu arrives et tout, et tu vois des performances hallucinantes. Des fois, tu es cette performance extrêmement nulle à chier, mais des fois, tu assistes à des trucs, tu te dis, c'est magique.
C'est le souvenir d'avoir vécu ça, parce que quand tu le vis, c'est pas toujours bien. Hein.
Ouais, mais oh, y a... oh. Oui, ça te prend quelques jours pour le digérer, ouais. Tu vois.
Et quand tu t'en rappelles, c'est vraiment marrant.
Ah ouais. Ah ouais. Il y a des fois, là. Là, des bons shows de merde là. Parce qu'après tu montes sur scène la première fois, tu te dis vas-y ok c'est bon, je rentre dans un long chemin, mais t'as aucune idée d'à quel point le chemin il est long. Allez, et tu te retrouves à jouer sur des cagettes.
Oui.
Oh là là.
Mais je me rappelle, il m'avait fait venir au Field et c'était tu viens et je savais que j'allais pas passer la première, mais il faut s'inscrire toutes les semaines, il faut s'inscrire, comme ça il te revoit, il dit bon lui il est déter, il faut le faire monter. Première semaine, je me fais recaler, bon, normal. Deuxième semaine, je me fais recaler. Troisième semaine, il dit « Ok, c'est bon, t'es dispo, tu vas passer sur scène. » Je fais « Ok, cool. » Et à l'époque, j'étais en train de me préparer. Et là, je me mets à avoir des sudations, mais de ouf dans tous les sens. Je transpire pas comme garçon, pas vraiment, tu vois.
Et c'était ta première scène ?
Première scène ever de comédie, de comique. J'ai fait le cours Simon, mais je savais pas que, tu vois...
Première fois que t'allais tout seul faire des blagues sur scène.
Ouais, le rêve, aller, comme tu dis, le chemin, j'allais mettre le premier pas dans le chemin, sur le chemin, quoi. Et je me rappelle, je commence à transpirer et il y a un mec qui me dit « Non, finalement, il y a un mec connu qui est là. » Et
c'est Franck Dubosc.
Non. C'était un mec
et il t'emmerde.
C'était un mec pas vraiment connu pour le coup. Mais il était connu, tu sais, quand t'es un jeune humoriste, t'as des jeunes... C'est un mec qui a fait de la télé une fois, il est connu lui, tu vois.
T'as un nom ?
Je peux pas donner le blaze. Parce qu'il est plus vraiment connu encore aujourd'hui. Il est encore moins connu qu'avant. Donc...
Mais après, il y a des trucs un peu de famille.
Moi, je veux des noms.
Il y a des trucs un peu de famille dans ces endroits-là. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu étais au Pranzo, c'était possible de dire à quelqu'un qu'on n'a jamais vu « Ah non, désolé, il y a Kev », même si Kev, c'était pas encore Kev. Tu vois.
Oui, bien sûr, il y avait un truc de la famille.
Le mec, il vient toutes les semaines, il nous met bien, il fait rire tout le monde.
Non, mais moi, ça me posait pas de problème. En plus, moi, je suis très...
C'est légitime, quoi.
Moi, je suis toujours « Ah bon, ah ok, d'accord, bon, bah, je reviendrai la semaine prochaine. » Et je suis revenu 5 semaines comme ça, et 5e semaine, ils m'ont dit « C'est bon. » Et là.
Pourtant, t'avais 2 blagues.
Il a eu le temps d'en écrire
au-dessus de la moyenne.
Non, mais j'avais 2 blagues, mais attention, j'avais 5 minutes, je me rappelle, et je les avais faites, et j'étais trop heureux, quoi. J'avais filmé, et j'ai un trou énorme, d'ailleurs, pendant mon passage, mais je m'en sors, et ça a été le début d'un truc.
En tout cas, je suis très content d'être ici, et tu trouves, c'est pas grave, ça va passer.
Parce qu'il y avait Boone ce jour-là, il y avait Boone qui était là, il mangeait par terre. sur les marches.
Il n'a pas changé.
ce mec a l'air cool et du coup il m'a proposé de faire sa première partie au Moloco à l'époque. Et je faisais des premières parties toutes les semaines, donc toutes les semaines je montais sur scène.
C'est juste que maintenant il mange du foie gras par terre. Toujours par terre.
Donc c'est Boone qui t'a fait. Donc attends, tu fais cette première scène.
Ouais,
et c'est à ta première scène tu rencontres Boone.
Voilà.
Et Boone il t'amène faire ses premières
parties. C'est ça,
ouais. C'est trop
et bien. Il m'a trop aidé et il m'a trop mis dans ses plans à chaque fois. Et grâce à ça, ça m'assurait moi une régularité. Tous les mardis, j'allais là-bas, quoi. Et après, Boone, il a commencé à parler de moi à des gens. Et les gens, tu vois, se sont dit OK. Et donc, Boone m'a commencé à m'intégrer là-dedans. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe pour les gens qui veulent faire ce métier. Bah, tu fais des passages et après, on entend parler de toi. Donc, on dit, ah, il y a une scène qui s'appelle machin. Et encore plus aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez vu dans le stand-up, mais il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une nouvelle scène qui se crée, quoi.
Ouais.
Et toujours, c'est des blazes de plus en plus improbables, d'ailleurs, de comedy club.
Il y a un truc souvent, tu sais, qui revient comme quoi. Les humoristes entre eux ils s'aident pas forcément, mais en vrai de vrai le chemin c'est que des humoristes qui t'aident en vrai.
Grave, je pense.
C'est que ça.
Mais c'est quoi ce truc? Il y a des gens qui disent que les humoristes.
Je sais pas, j'ai l'impression que globalement on a l'impression qu'il y a une ambiance de compétition.
Il y en a eu en fait il y a 15 ans. Je pense que cette réputation vient des années des ancêtres de notre génération.
Je pense aussi. Aujourd'hui, on est beaucoup plus solidaires. Hein.
Mais moi, j'ai l'impression que vraiment sur mon chemin, toutes les étapes, c'est tu te bats pour avoir un certain niveau et ton niveau fait en sorte que certaines personnes te disent « Bah écoute, viens,
exactement.
Je suis intéressé à... »
Grave.
Il y en a, ils vont dire « On ne m'aide pas », mais pour l'instant, on ne peut pas, en fait.
Parce que c'est, faudrait qu'on
revienne avec au moins 2 blagues.
Reviens avec, trouve la troisième.
C'est ça, je suis censé t'aider à trouver des plans. Je ne suis pas censé... écrire pour toi, c'est la seule chose dont tu as besoin. Là.
Mais je sais pas si ça vous fait ça, mais il y a des gens qui paraissaient très aigris, mais une fois que ça marche mieux pour eux, ils sont beaucoup plus...
Ah mais ça détend le succès, ça détend à fond.
Ouais.
Dès que ça marche un peu, ça détend.
T'as aussi l'effet inverse, des gens qui t'écoulent et avec le succès, ils redeviennent eux-mêmes.
Bah, peut-être ils l'ont toujours été.
Ça devient des gros bâtards.
Et me voilà au sommet.
Voilà.
Le master, ça y est.
J'ai fini le mastermind.
Non, mais c'est vrai que ça détend. Par contre, moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à être, je suis passé sur Canal et tout, j'ai commencé vachement à me détendre en me disant cool. Ouais. C'est plus sympa maintenant. C'est plus,
moi,
j'ai moins de trucs à prouver.
Cool.
Quoi.
J'ai
non,
toujours
t'as,
connu
t'as jamais
cool.
été aigri.
Non, mais ça m'a détendu intérieurement. Peut-être qu'il y a des gens, quand ils sont tendus intérieurement, ils deviennent méchants. Moi, j'étais pas méchant à la base, mais je sais que j'étais tendu intérieurement. J'étais un peu tendu, genre. Tu vois, fallait à un moment donné que. Fallait s'en sortir quand même. Parce que je me rappelle juste quand on a fait Bref à l'époque, je me suis dit, j'espère au moins qu'à la fin de l'été, je pourrais payer mon loyer. C'est le seul truc que je me suis dit après Bref. C'était mon objectif.
Ouais. Alors, c'est bon, ça a été.
Ça y est, j'ai pu payer le loyer.
Okay, cool.
J'ai pu payer mon loyer. C'était vraiment mon objectif. C'était même de dire, ouais, ça va faire des vues et tout. J'ai dit, si au moins je peux payer mon loyer, franchement, je suis au max. C'était mon objectif.
Ah, c'est. Quand tu démarres, c'est compliqué. Hein.
Toi, Roman, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Ahmed, c'est la première personne que tu as rencontrée à Paris. C'est une des premières personnes qui t'a filé des plans.
Ouais, c'est la première personne qui m'a donné des coups de main très naturellement et très simplement. Et ça s'est fait. Moi, de toute façon, je te dis, mon parcours, c'est que ça. C'est que je suis dans des loges et là, il y a des conversations naturelles qui naissent avec des gens et il se passe des trucs cool. Et je me souviens, Sparrow, on est au Paname, j'arrive, on se dit bonjour. Et puis, ça va très vite. Il me dit, ah, tu devrais contacter ce gars-là pour aller jouer là-bas, etc. Et j'avais trouvé ça vraiment cool.
Bah, grave.
Vraiment. Et ça m'a beaucoup aidé. Pareil, c'est le début du chemin.
Mais les gens s'aident entre eux. Et moi, je pense qu'on. Tu sais, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est qu'on rend hommage aux gens qui meurent à chaque fois. On dit toujours aux gens qui meurent, putain, c'était cool quand même, il m'avait donné un coup de main et tout, tu vois, machin. Viens, on rend hommage aux gens vivants. Ahmed Sparrow, t'as aidé Roman, tu lui as filé des plans. Bravo, mec.
Bien sûr.
Bravo, t'es le mec du jour.
Nous allons rendre hommage à Ahmed Sparrow.
On l'aime encore beaucoup, Ahmed.
S'il en est là où il est aujourd'hui.
Mais je pense qu'on attend que les gens soient morts pour être sûr qu'ils ont pas fait de la merde, tu vois. Sinon, après, il y a des vidéos de toi qui rend hommage à Dieudonné. Après, le mec part en couille. Au moins, quand il est mort, tu sais, tu vérifies, tu fais OK, bon, il s'est bien tenu jusqu'au bout. On peut lui rendre hommage. Ouais.
Ah, d'accord, j'avoue, c'est une sécurité
si brillante.
Ah, d'accord. Non, mais moi, je trouve qu'on manque le remerciement. Je trouve qu'on manque. Sur Twitter, sur Instagram, on dit trop bravo à des morts. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça, on devrait rendre hommage à des gens. C'est comme une sorte de Oscar d'honneur que tu le ferais dans une journée, tu vois. Ça serait kiffant.
Moi, chaque début d'année, je remercie les gens de l'année. J'ai mes gens de l'année sur Instagram, je fais un statut à chaque fois et je mets merci, ma rencontre de l'année, mon frère, je mets des noms.
Ah, ça fait plaisir.
Le mec remet des prix carrément sur Instagram.
Ouais, mais c'est.
Les Ahmed Sparrow.
C'est juste pour dire à des gens que j'aime que je les aime. On le dit jamais dans la journée. On rigole tous les jours, on s'appelle, mais à un moment, il faut dire que c'est des personnes qui comprennent.
Moi, je suis très mauvais pour ça. Ouais. Très, très, très mauvais. Tout ce qui est démonstration de tout ça, moi, je suis.
Bah, t'es un bonhomme, quoi.
Moi, ma plus
toi,
grande
dégoût,
même pas,
toi, un vrai bonhomme.
C'est même pas bonhomme, je pense. Tu vois, c'est vraiment un espèce de truc, je sais pas d'où ça vient, mais moi, une déclaration d'amour, ça peut, tu vois, on va avoir un eye contact, il va y avoir une vraie connexion, c'est tout, je vais pas aller plus loin. Ça va être une vraie déclaration. Wow, tu vois, voilà. Non, mais dans le sens
ça fait
où.
Tu beaucoup de déclarations à ta boulangère ou
Oui, non, mais tu
on
le sens.
On se regarde,
c'est dans des attitudes, en fait. Mais jamais, je sais pas, j'ai du mal, moi, à faire ça. Toi, t'arrives, tu fais des grandes déclarations.
Moi, je dis bon, moi, je dis merci
mais
à tout le monde.
Tu le montres, tu le montres. Il y a des gens que t'aimes, tu le montres.
Oui, voilà, c'est ça. Moi, c'est plus dans les actes et tout. Sinon, ouais. Ça, là, je suis pas capable.
C'est un truc que j'avais lu dans la bio de Michel Serrault. Il disait. Parce qu'il avait son pote Jean Poiret, tu vois. Jean Poiret et Michel Serrault, c'est le duo iconique de France dans les années 50. Ils ont fait les cabarets ensemble. T'imagines, ils ont fait. C'est, nous, ce qu'on fait, c'est leur parcours. Commencer, puis après arriver au cinéma, devenir des acteurs monstres, des metteurs en scène monstres et tout. C'est vraiment leur vie, quoi. Et pendant 50 ans, ils sont ensemble et il perd son pote. Et à ce moment-là, il explique qu'il est complètement amputé d'une partie de lui-même. Et à partir de ce jour-là, il dit, dans sa tête, il a cette impression, enfin, je ne vais pas citer Michel Serrault, ce serait, je ne me rappelle plus très bien, mais il dit qu'à partir de ce jour-là, dès qu'il avait quelqu'un qu'il aimait, il le croise et il le prenait dans ses bras très très fort, parce qu'il sait que c'est limité, en fait, il s'est rendu compte de la limité. Je pense que c'est important, moi, de dire, après, c'est ma philosophie un peu bisounours, mais moi, je remercie toujours les gens, parce que c'est hyper important. Quoi qu'il en soit, quel est le futur ou quoi que ce soit, ça se trouve, on se sépare et tout, mais le merci est forcément important.
Mais surtout que toi, tu manges des légumes, tu fais du sport et tout, donc t'es quand même entouré de gens qui vont mourir avant toi.
C'est ça, tu fais tellement attention.
Toi, ça te fait flipper, ce que tu dis.
Prépare-toi. À chaque sautée de poireau que je me fais, je fais putain, que j'appelle Navo.
T'es où, Navo? Je suis là, je suis sur le balcon, je fume une clope. Bon, je t'aime. N'oublie jamais que je t'aime. Ouais, ok. Peut-être à demain.
C'est beau quand même, c'est beau.
Vous avez une anecdote de débutant, vraiment de débutant pur, ou une anecdote de, je sais pas, vous avez fait des, vous avez pas fait des comités entreprise, des chichas, les chichas, la chicha qui est la case par laquelle on passe tous,
ouais.
À un moment donné dans sa vie. La chicha, faut expliquer. Ahmed, tu peux expliquer ce que c'est un peu une chicha?
Je sais pas si les gens ont vu le film Demolition Man. Tu vois où je veux en venir. Dans Demolition Man, il y a le monde de la surface.
Ouais.
Et t'as un monde souterrain. Bah, la chicha, c'est l'humour souterrain.
Il mange du rat.
Ouais,
il
exactement. Rat un burger au rat et il trouve ça excellent. Enfin, la chicha, c'est la même. En fait, c'est un endroit où tu joues, pas face à un public, tu joues face à des ennemis. Tu démarres ton sketch, t'as moins 4 rires. Mais c'est compliqué, hein, faut les remonter.
Mais
déjà.
Tu t'en sors bien, toi, non, chicha?
Ça va, ça
j'imagine.
Va. Oh, Roman aussi, il cartonne.
Je vois vos délires. Pour moi, vous avez un délire chicha. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est quand c'est des petits, genre les Adrien Arnoux, les Paul de Chavannes, des mecs comme ça, je les imagine dans une chicha, je dis, mais ils sont morts. Consommer une chicha ici, ils seraient pas à l'aise.
Ouais. Donc pour passer devant, il serait pas à l'aise.
Juste dire qu'il passe devant, il regarde pas.
J'ai
déjà
vu des morts. J'avais des morts. Tu vois, quand on dit il est mort sur scène.
Attends, il faut aller au bout de l'explication. C'est qu'en fait, dans les chichas, désormais.
Une chicha, c'est un endroit où on fume des chichas.
Voilà. Un bar à ça. Où les gens fument des chichas en regardant comme ça, vénère.
Il y a des comédies.
C'est là où sont tous vos chauffeurs Uber. Quand ils ont une pause, ils vont là. Et en fait.
Et leur grand frère.
Et en fait, le truc, c'est que maintenant, c'est bien de mettre des humoristes, mais en vérité, souvent, t'as un micro avec un fil de 30 cm. Près de la table du gars qui d'habitude envoie du son, et tu dois faire un passage de quoi, 10 minutes.
Ouais, après ça a bien évolué.
Ouais,
il y en a aussi.
Il y en a des mieux maintenant.
C'est chic, là où la scène est vraiment bien, c'est chic. Il y a une clientèle. Mais genre, c'est plus de 300 personnes et les gens viennent rigoler.
Ah, ok, mais c'est plus une chicha. En fait, c'est un théâtre.
Voilà, c'est un théâtre.
Ah, maintenant, en fait, il n'y a plus de chicha, c'est interdit de fumer à l'intérieur. Les sièges sont alignés.
C'est un théâtre.
Ils sont en rouge. Il y a un rideau rouge. Et ils ont mis une scène, c'est vachement bien. Ils ont appelé ça le gymnase.
Moi, j'aime trop.
En fait, c'est ce que j'aime avec Roman. Il y en a plein, ils sont comme. J'aime la difficulté. C'est de me dire qu'ils sont durs. Ah, ça m'excite. Je vais voir si je peux les faire rire.
Titre. Ils sont durs, ça m'excite. C'est un titre de porno, ça, clairement. C'est...
Ah ouais,
ouais. Non, ils sont durs, ça m'excite. C'est un titre de boulard.
Ah, moi, merde. Je me souviens que je suis arrivé la première année à Paris, on travaille fort, on essaie de se faire une place ici, on se bat. Et Sparrow, il me dit, écoute, le boss final, ouais, c'est le boss White final. Dream. Il me dit, c'est le boss final. Et je lui dis, quand je suis prêt, j'arrive. Laisse-moi faire les trucs un peu, tu vois, dans le monde... au-dessus, et une fois que j'y suis, et à chaque fois qu'il me voyait, c'était le truc. Il me regardait, il me disait, le white dream. C'est, en plus, le rêve blanc, tu vois. Le rêve
de blanc.
Et c'était, c'est magique. En fait, c'est rarement dans ma vie, j'ai été dans des situations de stress comme ça, tu vois, avant de monter sur scène. Parce que tu te dis, tu vois, est-ce que je vais faire rire, tu vois, est-ce que je vais être marrant. Tu sais qu'il n'y aura pas de mensonge. Il n'y aura pas de politesse. Ça veut dire que si les gens ne te trouvent pas marrant, bah, ils vont te faire
ça. Ils ont un a priori sur... Non, ils n'ont pas. Moi, j'ai déjà fait une chicha, ils sont battus les couilles.
Par contre, c'est ultra honnête. Moi, c'est ça que j'aime.
Parce mais ils avaient envie de s'amuser. Ils ont envie de s'amuser.
Ouais, à fond. Et tu sais que chaque rire va être ultra précieux et ultra
sincère. Quand ils apprécient ce que tu fais, ils vont te le montrer. Hein.
Ah, oui.
Roman, la première fois qu'il est venu, quand je te dis, il les a brûlés.
On s'est amusé.
C'était le feu. Et tu sais... Quand tu joues, tu dois sortir et re-rentrer. C'est une porte là, l'issue de secours, et tu re-rentres. Et quand elle est re-rentrée, j'aurais crié.
Ah oh, yes. C'était ta première fois en chicha. Là, t'étais master.
Première fois.
Là,
c'était quel passage? C'était
les pieuvres.
Les pieuvres et la confiture.
On avait fait les pieuvres, les arbres.
Il y a un moment donné, vous avez ça, ce mode à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'à force de faire des cafés-théâtres ou des endroits un peu hostiles, il y a un mode survie qui se déclenche.
Oui.
Ça fait genre, tu commences ta première vanne, ton cerveau il te dit
OK,
c'est parti. Tu mets des batteries de secours dans tous les sens et là, tu vas à l'énergie à fond et tu tapes.
Ouais.
C'est inexplicable. C'est pas un truc qu'on apprend. On pourra jamais l'apprendre dans une école.
Ouais.
C'est pas à l'école de comédie musicale ou à l'école de l'humour tu vois, de Montréal que tu pourras apprendre ça. Il y a un moment donné, il y a un instinct de survie, comme si tu étais en danger. Il y a un truc vraiment hyper préhistorique qui remonte comme ça. Genre, c'est un mammouth.
Exactement.
Il faut le défoncer.
Ça, il faut que des heures de vol. Tu sais, souvent, on dit qu'est-ce qu'il faut pour faire des blagues. En vrai, il faut avoir passé beaucoup de temps sur scène. Il y a tellement de trucs que tu peux pas expliquer avec des mots. Et je pense que chacun développe ses propres réflexes. Mais il y a un vrai truc de heures de vol. À un moment donné, si tu montes beaucoup, beaucoup, beaucoup sur scène, tu t'es retrouvé, c'est sûr, dans des situations qui te font. Apprendre. Déjà, tu vas tuer ton ego, déjà, complètement.
Grave.
Plus personne ne va vraiment être capable de...
Mais attention, les soirées où tu viens de te prendre un bide, tu rentres chez toi, tu remets toute ta vie en cause,
tu vas
le bouffer.
Je crois que les gens ne s'en rendent pas compte.
Jeune humoriste, vraiment, ça, à 2h du matin, on te dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? J'arrête tout demain. J'avais une offre d'emploi, je crois, chez Intermarché. Peut-être que je devrais y aller.
C'est le plus dur. C'est le moment, le bide qui fait mal, où tu remets ta vie en cause, ça, c'est le...
Tout le monde dit bravo à tout le monde sauf à toi.
Ça y est, j'ai fini. Ouais.
Le pire, c'est dans les yeux. Tu comprends vite. Déjà, il y a un autre truc à dire aux humoristes. Il ne faut jamais se fier aux commentaires qu'on fait sur ton passage, pas les mots, n'écoute pas les mots, ne regarde que les yeux. C'est dans les yeux que tout se passe. Si tu veux la vérité sur ce que tu viens de faire, n'écoute pas les gens. Les gens, ils vont te dire il y avait un délire, il y avait un truc.
Peut-être que.
Une énergie. Regarde que les yeux. Quand c'était bien, ça pétille. Quand t'étais éclaté. Mais il faut avoir le regard.
Et quand c'était éclaté, tant mieux. C'est que t'es sur le chemin de réussir. Voilà. Il faut quand t'es éclaté, t'étais sur le chemin de la réussite. Bah quoi. Ouais, c'est le forfait, tu vois.
Exactement.
Complètement.
C'est le sac de la réussite. Il y a tout. Il y a tout dans ce sac. Il y a ce fameux bide, quoi.
Il faut pas vouloir être assuré.
C'est la chose la plus dure pour nous. C'est le bide.
Ouais.
Et dans les chichas, il y en a eu beaucoup. Mais comme je te dis, comme c'est dans le monde souterrain, ça va.
c'est pas le monde réel, c'est comme dans visible. Stranger Things. C'est là où il y a les bêtes, tu vois, derrière l'arbre.
T'as pas un article dans Chicha Magazine.
Le reverse monde, c'est un monde où tu peux bider.
Ça vous est déjà arrivé de, admettons, il y a un organisateur, il vous appelle, il vous amène quelque part, il vous chauffe à tout le monde. Là, vous arrivez sur scène, vous bidez et vous devez encore passer du temps avec tout le monde après. Ça t'est déjà arrivé, genre il y a un repas et ça mange.
Salade de pommes de terre.
Et avant ça, on te voit ce soir la star, c'est la star de ce soir, lui ça va être super. Là tu fais le truc, t'es éclaté, nul, et tu dois manger comme ça là. Et il y a tout le monde qui te fait des commentaires. Non mais ça c'était bien, et c'est de plus en plus relou.
Tu peux même pas bouger.
J'ai eu ça,
c'est juste... comme un date arrangé. Et toi tu connais pas la meuf elle te connaît pas, c'est quelqu'un qui a dit tu vas voir, il est beau gosse de ouf, tu t'assois, tu vois ses yeux, tu vois, il dit mais il est chum, je déteste ce gars, et après faut quand même manger.
C'est
la même sensation.
J'ai eu ça, première fois que je remonte sur scène, juste après, j'étais pas prêt, mais j'avais des heures de vol, mais j'étais pas prêt quoi de refaire le truc, et la soirée on m'a dit t'inquiète, il y a un MC, il chauffe les gens et tout. Je fais ok cool, tu passes en 1. Je fais ah bon, faites-moi passer un peu en 2 ou 3, parce que là je suis pas vraiment, le temps que la soirée se chauffe. Non, tu passes en premier. Ok, pour expliquer un peu aux gens, l'énergie, au bout de 40 minutes, c'est pas la même que quand tu passes au début. Quoi. Ah ouais. Au bout de 40 minutes, les gens sont chauds, ils ont envie de rigoler, ils sortent de leur bulle, de leur zone de confort, ils ont envie de s'exprimer dans le rire. Débuts sont jamais trop comme ça.
Débuts, t'es la première partie de tous les autres.
Mmh. J'arrive dans une pièce, c'est un gymnase. Donc quand tu parles, il y a de l'écho. Mec, il y a tellement d'écho, je crois que mon spectacle se joue encore dans la salle. Je te jure, il y avait tellement d'écho.
Ils touchent des droits d'auteur.
Ils touchent des droits d'auteur.
Il y a des gars dans le gymnase qui sont dans un exercice, ils entendent c'est le pute dans l'avion. C'est Ken.
Putain, mais je te jure, il y avait un écho de ouf. J'entendais pas ce que je disais. Je passe en 1 et le MC, c'est quelqu'un en coulisses qui fait. C'est des gens qui mangent, qui sont de dos comme ça.
Oh,
et ça fait. Et maintenant, le spectacle, vous l'avez vu dans Bref, il est là.
Oh,
on se retourne, moi je monte sur scène, je fais.
C'est une annonce Carrefour. Bon,
et Mathilde est attendue à la caisse 2.
Et je me retrouve dans un endroit et je commence à faire wow. Et là, mon écho commence à vivre. Maintenant, je crois qu'il a 8 ans maintenant. Je crois qu'il sort de l'école, là, il faut qu'il aille en cours.
Combien de temps
mon
tu
écho,
faisais?
J'ai fait 15 minutes de répétition.
C'est
C'est-à-dire que vraiment, j'ai pas eu
avec
un rire.
De l'écho, donc tu entendais ta répétition.
Oh là là, la déception pour les
15
gens.
15 minutes.
La déception.
1h30 ressentie. Ressenti 1h30.
Ressenti 1h30.
Comme les températures.
Ouais, ah ouais. C'est ça. Je te jure, il y a des secondes interminables sur scène.
Oh là là là.
Et le seul compliment que j'ai eu après mon spectacle, c'était. C'était bien, bref. Hein.
Putain, tellement dur.
Et là, j'étais pas bien.
Ouais, le pire, c'est que là, tu sais, moi, quand je te parle d'une aventure, je te parle d'une aventure en particulier. Le pire, c'est que tu sais, t'as ça, tu manges avec eux et t'as le moment après où tu te retrouves seul avec l'organisateur et il doit te payer.
Ah ouais.
T'es gêné, t'as envie de dire retire 200.
Chaque billet qu'il te donne, il est pas justifié.
Ouais. Mais c'est tellement. Après, c'est un métier vivant, c'est un métier aléatoire. Donc, tu peux pas garantir que ça. Tu peux brûler. Tu sais que t'as la capacité à brûler, mais tu sais, ça peut des fois passer juste, quoi, tu vois.
Ta confiance, elle fait des hauts, des bas.
C'est pour ça que...
Il y a des fois, t'es dans des pics.
Moi, je me rappelle, on faisait des comités d'entreprise à un moment donné avec... c'était avec Donnel et Verino à l'époque. C'était Cyril Hanouna qui présentait la soirée. C'était la route du rire de Volkswagen. Et moi, je passais, ça marchait. Verino, il passait, ça marchait. Donnel, il écrivait 3 blagues sur le comité d'entreprise de Volkswagen. Il pliait tout le monde, mais tout le monde. J'ai dit, mais voilà, c'est lui qui a compris, c'est lui qui a écrit un truc particulier pour les trucs, il leur a parlé à eux. C'est exactement ça qu'il fait dans les soirées comme ça.
Exactement.
Si tu fais ton numéro et que tu dis ça va passer, ça, t'es pas sûr. Hein.
Ouais, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté les comités d'entreprise et que je me suis dit, tout ça, faut pas. Je veux arriver au chemin où je peux faire des blagues sur tous les sujets que je veux, tu vois. que... Parce que sinon, tu deviens dingue, tu deviens dingue.
Thomas Wiesel, il s'en sort super bien. Avec
ouais,
ça.
Il est très fort.
C'est, Thomas, c'est son truc, quoi.
Thomas, c'est un mathématicien de la blague. Thomas, c'est...
Ouais, c'est vrai qu'il fait des formules.
Thomas, c'est un journaliste, en fait. Bah, ouais. Pour moi, c'est un journaliste. N'importe où il arrive, il est là, il enquête.
Ah, ouais, il, est,
il mène une enquête.
Mais, à Montréal, il a plié Montréal quand on était ensemble.
Il écrit les blagues la journée.
Ouais, mais il plie les gens. Il fait des blagues sur Montréal et puis il a des hits.
Thomas, je comprends jamais. Je comprends rien à ce qu'il raconte.
Ah oui, c'est vrai.
Faudrait qu'il soit, qu'il joue dans ma famille. Là, je comprendrais ce qu'il va dire. Ouais, ton Jean-Paul et tout. Ouais. Et là, je vais comprendre. Mais sinon, à chaque fois, je le vois. Alors, fait. Et alors, monsieur de la source, ce serait pas le dernier et tu comprends pas. Tu fais, ouais, c'est quoi, non. Après, il t'explique. Il fait, non, mais en fait, c'est l'assistant du premier ministre québécois.
C'est
et lui, tu fais, wow, mec.
C'est la version blague.
Il plie tout le monde sur place.
Ouais, il est très fort.
Et donc, j'ai fait un parallèle avec leur équipe de hockey parce qu'il y a quelque chose. Ok, mec. Mais les gens, ils sont morts parce qu'ils nous parlent à nous.
Je sais pas si j'arriverai à vivre avec autant d'infos sur le monde. Tu vois,
il connaît Thomas Wiesel tous les noms des joueurs de la Coupe du Monde 2018. Ouais.
Tous, de toutes les équipes.
Tous, du Japon, de la Corée, de la Grèce. Tu lui dis, c'est des équipes, c'est 23. Toutes les équipes, il connaît tous les joueurs.
Le staff, le kiné.
Je sais pas s'il connaît staff.
Si c'est renseigné, il le sait.
Mais t'imagines ou pas?
Ouais, c'est chaud. Il a une mémoire extraordinaire.
Ouais, il a une forme de
d'hypermnésie.
Ouais, il est hypermnésique, quoi. Je crois qu'il est
hypermnésique.
On peut dire qu'il est surdoué.
Ouais, complètement.
Enfin, je sais pas s'il est surdoué dans le sens totalement commun du terme, quoi. Dans le sens, je sais pas s'il a fait des tests, mais tu sais, genre waouh, il est vraiment doué.
Non, mais c'est sûr.
Il est très doué, très fort. On t'embrasse, Thomas Wiesel.
Ah ouais.
On t'embrasse, là, tu dois être, je crois, dans un comité d'entreprise. Je voulais revenir un peu sur ton parcours aussi, Roman. Est-ce que ça t'a servi, toi, l'école de l'humour à Montréal? Est-ce que t'as vraiment apporté quelque chose?
Ouais, complètement.
Est-ce que tu trouves que cette école, elle aurait sa place en France?
Ouais, complètement.
Je crois qu'ils y réfléchissent d'ailleurs d'importer le concept.
Ça serait... Ouais, bah, en fait, je pense que le milieu en général réalise qu'il y a une vraie professionnalisation de la chose, qu'il y a une vraie demande aussi. Et donc, une formation, ce serait pas complètement fou. Il y a des gens qui en parlent.
Mais qu'est-ce qu'on apprend alors dans ces écoles?
Moi, ça m'a beaucoup aidé en termes de ce que ça prend pour vraiment faire ça dans la vie. Ça veut dire le rythme d'écriture.
Okay.
Me concentrer sur les bonnes choses, c'est-à-dire te parler. En fait, on m'a fait gagner 10 ans, j'ai l'impression. On m'a fait gagner 10 ans des choses que j'aurais pu.
C'est pour ça que t'es au même stade que Kian, alors qu'il a commencé 10 ans avant toi, quoi.
Moi, je pense que c'est pour ça.
Non, mais il y a un truc par contre que j'aimerais revenir là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes humoristes qui disent, en fait, tu sais, c'est quand tu te mets à quelque chose. Tu dis, je vais acheter les trucs pour le faire. Comme tu dis, je vais faire de la cuisine. Je vais acheter ça. Et le jour où il faut faire la cuisine, tu dis, vas-y, je vais me prendre un McDo. Tu vois, ouais. tu commences à te démotiver. Je pense qu'il y a un truc, il y a une illusion aussi de le fait des gens se dire, ouais, je vais m'inscrire dans une école. Moi, j'ai fait le cours Simon, par exemple. Et les gens se disent, je vais m'inscrire au cours Simon. Et c'est bon, ça va m'apporter quelque chose.
Non.
Moi, Roman, quand je t'ai connu à Montréal, je me rappelle, je dormais chez Adib El Khalidé à l'époque, qui est un humoriste que je vous invite à découvrir sur Netflix. Il est chambé, Adib El Khalidé, marqué là. Je te connaissais bien parce que tu avais fait les premières parties du gala, bref et tout. Et on rentre dans un café pour commander juste vite fait un petit déj. On croit Roman depuis 8 heures du mat en train de gratter des blagues. Je veux dire, à un moment donné, le travail il vient de toi.
Ah, mais oui.
Au cours Simon, tu n'auras que de. Tu ne trouveras là-bas que ce que toi tu vas y apporter.
Ah, mais ça, c'est la vie. Tu peux pas rentrer dans une école, faire juste écouter, apprendre, c'est un effort que toi tu fais.
Bah ouais, et travailler surtout. Et il faut être force de proposition en permanence. Et je pense que c'est comme ça l'école de l'humour aussi. Il y a des gens qui font rien là-bas, ils attendent.
Ouais, ça m'a donné un laboratoire extraordinaire. C'est-à-dire que moi qui étais ultra déterminé où j'écrivais comme un chien, à chaque fois je pouvais aller me confronter avec des gens qui allaient me donner des vrais avis avec une vraie expertise. Tu vois, j'arrivais, je leur disais ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis j'avais plusieurs avis différents, mais les gens sincèrement essayaient de m'aider, quoi, et me conseillaient d'essayer des choses. Moi, je pense là où ça m'a le plus aidé, l'école de l'humour, c'est que on m'a beaucoup poussé à tenter, à oser, à pas jouer la sécurité,
à te perdre,
prendre des risques, ouais, à chercher, à creuser. Quand tu passes ton temps à juste aller sur scène dans des comédie clubs, t'as cette pression de il faut que ce soit dans un certain cadre, parce qu'il faut que ça marche. Alors qu'à l'école, moi, je m'en battais les steaks si ça marche pas. Je suis en exploration. J'ai fait des sketchs où je jouais une cigarette. J'ai fait des trucs, j'ai des trucs trop bizarres, tu vois. Mais ça m'a permis de développer un vrai style.
Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé de péter des câbles sur scène, mais vraiment de péter des câbles sur scène. Vraiment de dire des choses totalement inadmissibles. Mais il y avait 3 personnes dans la salle et c'était mes limites à moi. On avait un spectacle avec Boone et Kairon où on faisait de l'improvisation. D'ailleurs, Kairon est resté sur ce créneau-là. Moi, je suis parti dans autre chose. Et et on avait des choses où on insultait les gens, mais sans limite. Ouais, mais il y avait tellement une bonne ambiance que les gens
riaient.
Il y avait un producteur qui était venu nous voir un jour pour dire « Ah, j'ai vu votre spectacle, j'ai compris, en fait, c'est trois connards qui insultent des gens pendant une heure. » On a dit « Ouais, c'est exactement ça. » et on avait ça, c'était notre sans limite. Tu as eu ce moment un peu sans limite. Moi, je t'ai connu il y a quoi, il y a 3-4 ans.
J'étais plus agressif.
Je t'ai vu un soir, t'étais genre «
Des bons soirs, il y a des soirs où l'homme paro est réveillé.
Je suis devenu très gentil. Ouais. Mais tu sais pourquoi ça? Parce que j'ai joué dans des endroits qui m'ont rendu comme ça.
C'est vrai?
Ouais, à un moment... Quand j'ai démarré, j'avais faim de scène. Peu importe le lieu, fais-moi jouer, je vais venir jouer. Je jouais face à des gens où le mec...
Mais tu brûlais tout, t'as toujours tout brûlé. Moi, je t'ai jamais vu bider, mec. Je t'ai jamais vu bider.
Si on bide, ça arrive de bider.
Moi, je t'ai jamais vu.
Je sais pas si je t'ai vu bider, moi.
Non, je t'ai jamais vu bider, mec.
Je sais pas si je t'ai déjà vu, moi.
Non, mais.
Pardon, Ahmed, Navo, excusez-moi.
Ouais, c'est qui, les gars?
Tu chantes en Navo à chaque fois. Ouais, je suis dans l'humour. Ouais.
Okay, super.
Je suis un pote de Roman à la base.
Ok, ok.
C'est moi qui
fais gaffe, Roman te regarde, c'est une déclaration d'amour.
C'est moi qui l'ai fait.
Ah oui, c'est vrai.
Il m'a dit qu'il m'aimait. Mais arrête, c'est trop.
Je l'ai connu, il était comme ça. Je lui ai fait faire ses premières scènes.
Ouais, oui, attends, lui.
Roman,
attends, je le connais. Tu les connais, ces gens-là? À la fin de ton spectacle, ils viennent avec. C'est des gens qui t'ont connu quand t'étais plus jeune, mais ils sont avec. Je l'ai connu, il était comme ça. Ah, mais je savais qu'il allait finir humoriste.
Ah bah ouais.
T'avais déjà 28 ans à l'époque, mais c'était comme ça.
Moi, je le disais. Il allait le faire, le petit.
Mais je me suis grave calmé sur scène. Avant, c'était vrai que j'étais... Parce que les chichas m'ont rendu comme ça. Vraiment. Vraiment. Ça m'a apporté une chose, c'est...
T'es revenu du sous-sol, t'as vu des choses qu'il fallait pas que tu vois. Mais t'es moi, revenu de la guerre du Vietnam, t'es détruit.
Mais voilà, je suis West Nest Live.
Tu regardais la nuit.
Demolition Man. Regardez Demolition Man. Voilà, vous allez comprendre. T'as jamais vu ce film?
Non.
Avec Wesley Snipes, Sylvester Stallone, les trois coquillages. Il s'est pas utilisé les trois coquillages. Oh là là.
Il s'est pas utilisé les trois coquillages.
C'est un classique.
Mais t'as quel âge,
futuriste?
Moi j'ai 25.
Tranquille.
Jeune.
Non, mais ouais, aujourd'hui je suis beaucoup. Tu sais, comment je le vois que je suis plus détendu? Tu sais, des fois quand je joue dans les plateaux au Paname, c'est souvent des fois, il y a des plateaux à 1h du matin, il y a des gens, ils sont bourrés, ils sont relous. Des gens
j'ai des gens qui se sont déjà touchés devant moi. Genre, ils étaient un peu en mode, on se met dans un spectacle, on vient, puis les meufs, le mec et sa meuf en train de se faire chaud, tranquille. Ouais. Pas se toucher, genre clairement, mais en train de se chauffer, quoi. Ouais. Ils s'embrassent.
Ouais, je l'avais vu 20 fois.
Ouais, mais en même temps, tu t'aurais pu prévenir quand même, je suis en train de faire des blagues. C'était des blagues que t'avais écrites en plus.
Ça fait longtemps que j'avais pas vu Kairon, c'est bon.
Non, mais du coup, ouais, je suis beaucoup plus détendu vis-à-vis de ça. C'est des gens qui manquent de respect dans le public. Ça arrive sur les plateaux souvent. Parce que les gens, ils viennent, c'est gratuit. Ils pensent que, voilà, on est leur pute.
Alors qu'ils n'ont même pas payé.
Ils n'ont pas payé.
Tu vois comment ils sont avec les putes qui payent.
Tu sais qu'un jour, je suis là et une fille. Et je ne veux pas faire des généralités, mais à chaque fois, je me prends la tête, c'est avec des filles d'origine maghrébine. Peut-être qu'elles ne m'aiment pas, je ne sais pas.
Tu leur rappelles
à m'associer à leur frère ou à qui elles veulent, à leur mec, je sais pas. Mais à chaque fois, c'est une fois, elle est la première rang, je monte sur scène, je te jure, tu vas voir à quel point les gens sont méchants. J'ai pas fait de blague encore. J'arrive, elle est sur son téléphone. Donc, j'ai pas commencé mes blagues. Je dis, est-ce que tu peux ranger ton téléphone? Elle dit, non, mais c'est pas intéressant. J'ai dit, non, mais tu
Wow, la violence.
J'ai pas fait de blague encore. Première phrase qu'elle me dit, non, mais c'est pas intéressant. C'est pas marrant.
Moi, le truc le plus.
La violence. Ouais. Mais ça, c'est des gens vraiment impolis, quoi. C'est vraiment des gens qu'on voit.
Après, en même temps.
D'ailleurs, les salles les détestent. Les gens font oh,
généralement. Ouais, moi, la phrase d'après, je lui dis ok, super, mais je commence pas le spectacle si tu sors pas. Et toute la salle dit mais allez, sors.
C'était fort voyard.
Et je me prenais pour un leader politique. Je dis allez, ils veulent que tu sortes, dégage. Elle a dégagé.
Ah, ça, c'est dur. Les gens impolis, c'est super dur.
Mais bon, pire, tu l'as humilié pour toute sa vie.
Non, mais c'est compliqué de jouer là, derrière ça, quoi,
et
tu
après,
vois.
Après, ils sont tous levés, je dis lapidez. Ils l'ont lapidé. Et voilà, depuis, on me respecte un peu plus.
Non, mais c'est fou. Hein. C'est fou l'impolitesse des gens.
Moi, je me souviens d'une soirée à Montréal où il y a un mec, il est sur scène et il fait une blague, tu vois, et la blague, elle est interminable. Tu vois, et on n'arrive pas à la chute. Et il n'arrête pas de dire... Et donc, ce qui est marrant avec ça, c'est parce que... Ce qui est marrant avec ça,
c'est
à un
moment donné,
il y a un mec du fond qui dit « Hey !» L'autre, il s'arrête, il lui dit « Donne ta blague !» Wow, j'étais en plus avec les potos, ça nous a saisis. Tous, wow. « Hey wow. !» Moi, c'est ça, le « Hey !» Donne ta blague !» Oh là là. Ça fait mal. Qu'est-ce que tu veux faire après ça?
Tu donnes ta blague?
Tu donnes ta blague.
Tu la donnes.
Oh putain, c'est dur. Frère.
C'est dur, hein?
C'est dur, il y a des moments durs.
Mais je te jure que les gens, ils se rendent pas compte que Tu sais, nous, on fait beaucoup de plateaux. Il y en a qui débutent, ils font genre un plateau par semaine. Et ils viennent, ils jouent 5 minutes dans la semaine. Ça veut dire que c'est leur seul moment de travail dans la semaine. Ils durent 5 minutes.
Bah ouais.
Et ils viennent et ils ne sont pas respectés par des gens.
Ah ouais, ouais,
t'imagines
ou pas
Il n'a que 5 minutes de temps de travail dans la semaine. Tu lui as niqué son travail.
Ouais, après, c'est un monde cruel. Moi, je pense que bon, c'est mieux. C'est bien aussi que ce soit dur, tu vois.
Ah oui, il ne faut pas que ce soit tout rose non plus, mais ouais. Ça fait mal.
Ah,
ça
bah, fait mal. Surtout, c'est que quand tu n'as que ça dans la vie,
tu
n'as que ça, quoi. T'as que ça, c'est ton moment de bonheur, c'est ton moment d'exister. Le reste, tu passes 23h52 de ta journée à attendre ce moment-là, quoi. Et t'as tes phases, t'as tes 8 minutes qui arrivent.
L'adresse publique, ça me fait penser à un exercice, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu un extrait, une vidéo d'un gars, je crois que c'est au Comedy Cellar, qui fait du crowd, qui parle avec le public, il pose une question au public, et il dit « Ma famille est fucked up ». Est-ce que quelqu'un ici a une famille fucked up ? Et en gros, la légende, tu sais, c'est comme tu vois, les vidéos où il y a écrit des grosses légendes. Il y a écrit « Il ne s'attendait pas à cette réponse. »
Ok.
Tu dis « Comment va-t-il faire ?» Et on voit pas ce qu'il a fait, on voit juste la réponse de la meuf. Donc, il y a le meuf qui dit « Moi ?» Il dit « Vas-y, dis-nous. » Elle fait « Non, mais en fait, je me rends compte, c'est pas très drôle. » Il fait « T'inquiète, même si c'est pas drôle, allez, on l'attend. Dis-moi. » Elle fait « Non, non, mais vraiment. » Et le gars dit « Allez, vas-y, fais avancer le spectacle, putain !» Et elle dit bah, « En fait, ma mère a quitté mon père et ensuite, il l'a assassiné.
Oh. »
Qu'est-ce que vous répondez à ça, si vous avez fait le malin qui pose la question ? T'as dit « Vas-y, je vais rendre ça drôle. » Et la meuf dit « Ma mère a quitté mon père et ensuite, mon père l'a assassiné.
Là, il me faut un peu de temps.
On imagine, c'est comme dans Migraine, vous êtes trois dans la tête d'un humoriste.
C'est une caméra cachée.
Vous avez cinq secondes. Qu'est-ce qu'on fait ? Elle vient de dire ça.
Déjà, on va vomir. Parce que là, le niveau de stress
c'est
trop fort.
Allez, tout le monde te regarde.
Et il a fait quoi, le gars ? Du coup,
ils ont pas montré.
Ah putain,
ils ont pas montré sa réponse.
C'est que ça s'est mal passé.
Moi, j'en ai déjà fait une horrible comme ça sur scène.
Non, mais moi, déjà, je veux savoir ce que vous dites là.
Ah ouais, vas-y, attends, ok, on va trouver. Faut se mettre dans le rythme. Ah, vas-y, dis-nous. Bah, c'est simple, en fait. Mes parents, ils se sont séparés. Mon père, il a tué ma mère.
Bah, du coup, au moins, tu changeras pas de maison chaque semaine.
Ouais.
Du coup, t'es une semaine sur deux chez ta mère, une semaine sur deux au cimetière.
C'est pas mal, ça. T'es une semaine sur deux à la prison, une semaine sur deux au cimetière. C'est pas mal, le parloir.
En prison, t'as marché bien.
En prison.
Là, faut l'assumer.
Et alors, tu préfères quoi, le parloir ou le cimetière?
C'est quelle semaine que tu préfères?
C'est un week-end sur deux, t'es au parloir?
À West Valley?
Et donc, il lui paye toujours une pension ou pas? Comment ça marche?
Encore,
ouais. Ouais, non, mais tu peux pas.
Tu peux peut-être récupérer parce que c'est tellement ignoble de dire ça que ça peut vraiment les gens faire genre c'est encore plus ignoble que ce qui est arrivé. Quoi.
Bah pour moi, il vaut mieux faire ça parce que sinon, après, la solution de secours, c'est de rigoler du fait que c'est impossible d'en rigoler. Mais pour moi, t'as pas vraiment rempli la mission.
Mais si tu veux admettre, ou alors tu te dis et il est venu à l'enterrement? tu fais sur des trucs horribles.
Moi, je pense, si t'arrives, là, on a mis du temps, mais si du tac au tac, ta réponse. C'est du coup une semaine sur deux, t'es au parloir, l'autre semaine, t'es au cimetière.
La salle, elle explose.
C'est mort.
La salle, elle explose.
C'est terminé.
Bah oui.
Là, les gens, ils font.
Ils font des pirouettes, les gars.
Ils font des pirouettes.
Bah, je pense que j'aurais joué la carte de la bienveillance. Ah ouais, c'est hardcore. Bah, tu sais quoi, ici, il y a beaucoup d'amour, on va te donner beaucoup d'amour. J'aurais joué une carte, tu vois.
Ouais, mais bon. Pour t'en sortir, quoi.
Ouais, pour sortir de ce malaise.
Avec nous tous,
dur,
au fond. Avec nous tous, au fond du comédie.
De toute façon, c'est soit faut être bienveillant, soit faut être encore plus dur que sa phrase.
Ouais, mais c'est pas mal, le parloir.
Ou alors, faut aller très vite. Mais si elle le dit, bah, en fait, mes parents, ils sont séparés, puis mon père, il a tué ma mère, et tu dis, mais on a le droit de faire ça? C'est un peu le. Mais bon, faut aller très vite, et t'es pas sorti d'affaire, parce qu'après, bon. Il faut s'en sortir. Moi, une fois, j'en ai fait une horrible. Mais quand je te dis horrible, tu sais, t'es dans tes impros et tu sais pas comment t'en sortir. Écoute, hein, mais le moment de malaise était tellement fort. J'arrive pas à croire que j'ai survécu. Donc là, je suis en train de faire du. Tu sais, je parle aux gens. C'est à l'Abreuvoir, j'ai animé la soirée. Tu sais, c'était beaucoup d'impro. Et à un moment donné, je parle avec une fille et puis je lui demande est-ce que vous êtes célibataire ? Elle me dit non. Et je lui dis il est avec vous, votre mec ? Elle me dit non, en fait, il est parti faire la guerre. Okay. Et là. Moi, je sais pas pourquoi. Et je lui dis, et ça vous fait quoi alors qu'il ait choisi de tuer des gens plutôt que de rester avec vous?
Mais t'as dit, rester avec vous, pas de te baiser. Moi, j'aurais dit de te baiser. Mais quoi qu'il préfère aller tuer des gens dans le bout du monde plutôt que de te baiser?
Préférer tuer des gens qu'il connaît pas plutôt que faire l'amour à sa meuf, t'imagines? Et là, j'ai les gens qui. Le réflexe de. Ah, et tout de suite. Et je suis dans un malaise. Où les gens, ils se disent, c'est drôle,
France,
mais je te suis pas là-dedans. Non, c'était à Montréal. Oh là là, c'était dur. Oh là, je me sentais tellement mal.
Et elle a répondu ou pas?
Ouais, il y a eu un malaise énorme. où elle était c'est quoi cette question de merde? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça?
J'avais un truc comme ça, début de spectacle, je commence à jouer et je fais mes premières blagues. Et il y a un mec au premier rang, il est genre mais pété de rire, mais genre il est déjà en train de suffoquer.
De déstabiliser.
Regarde, je me dis, mais mec, si t'es déjà là au début du spectacle, tu vas être là. D'accord? À un moment donné, tu vas te lever, tu vas exploser. Non, et tout le monde fait ah ah.
Oh non.
Et j'ai fait genre non, c'était pas un bon exemple, Et ça, je me suis dit.
Pourquoi il avait quoi?
Non, mais je me suis dit, t'imagines, un mec se lève et explose, ça fait terroriste quoi. Ah, et donc, ouais. Je me suis dit, oh, ça a mis l'image. Non, même pas, c'était pas ça. C'était genre, je me suis dit, j'ai mis cette image là et les gens ont fait ah, vous, pareil.
Ah ouais.
J'ai
fait, tu le sens quand tu dis exploser ou des trucs comme ça dans une salle. Maintenant, il y a des.
Ah ouais, en fait, ça, et je l'entends, je me dis, oh, début de spectacle, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mode survie, batterie de secours, et c'est parti, la bonne ambiance. Mais non, vous inquiétez pas, ça veut dire rigoler dans l'explosion.
Sache qu'ici, tout le monde va te donner de l'amour.
Allez, on peut
ça sortir à chaque fois en fait.
Ah ouais,
ouais, c'était fou. Et d'un coup, je me suis dit,
ça fait peur.
Mais là, d'un coup, t'as de l'adrénaline, tu sens ton sang se glacer d'un coup. Comment ça se passe chez Click, les gars?
Super.
Ouais?
Ouais, moi j'adore. Écoute, Moulou.
Bah là, t'es vraiment dans un. Là, j'ai revu la première et j'ai vu ta dernière chronique. J'ai vu la première et la dernière. Rien à voir.
Rien à voir.
Le jour et la nuit, mais d'un autre siècle.
C'était le. Ouais, j'ai vu d'un autre. Vraiment, ça m'a tellement permis de travailler. C'est fou, j'ai l'impression de.
Là, t'es comme un poisson d'eau, tu dis ce que tu veux.
Ouais.
Et t'as eu ce truc à un moment donné, tu fais une blague, il n'y a pas de rire, hop, t'enchaînes, tac, sur ta morale et ça marche. Et t'as toujours des morales bien senties, je trouve.
Ouais, après, c'est un peu un truc pour conclure. Souvent, j'essaie de trouver un léger mot d'esprit, tu vois. Je trouve que ça conclut bien les chroniques. Mais là, comme tu dis, en vrai, j'arrive, là, je dis ce que je veux. Je me sens vraiment à l'aise. Je me sens, tu vois, c'est trop bien. Je suis trop content, en fait.
Ouais, ça se sent.
Donc, j'essaie de donner mon maximum pour ça.
Bah, ça se sent grave, toi. Et toi, Ahmed, tu le sens comment? Je trouve que c'est une des chroniques, le pestacle sur Click, je trouve que c'est une des meilleures chroniques qui représente un peu les avis des stand-uppers, tu vois, les gens qui ont des choses à dire, sorte de sociologue de l'humour, tu vois, un peu genre ces humoristes sociologues, tu vois, qui peuvent dire des choses. Toi, t'en penses quoi, toi, Ahmed?
Bah, moi, j'étais.
Tu te sens comment?
Je me sens très bien, de mieux en mieux, en tout cas.
Ouais. C'est un exercice quand même, t'as vu, la télé, c'est le plateau, sentir les gens,
c'est
les lumières.
Très, très dur. La première, c'est. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti du stress. Tu vois, là, je viens de Montreux, je joue devant plus de 1000 personnes, et j'avais zéro stress.
Ouais.
Et tu vas à Click, qui sont 40, et t'es stressé comme ça.
Mais t'as un nouveau texte là aussi. T'as vraiment. Tu l'as testé avant ton texte, avant ou pas, sur d'être devant des gens?
J'avais déjà testé un peu au Paname, mais Montreux, là, j'avais du texte que j'avais même pas testé, et j'y allais sans stress. Après, peut-être c'est le fait d'avoir fait Click et d'avoir vécu des trucs plus stressants qui m'ont rendu plus. Mais après, moi, j'étais grave admiratif du travail de Roman. Sur Click, pour moi, c'était la meilleure chronique télévisuelle qu'il y avait en télé, tu vois. Et après, c'est Roman qui nous a permis aussi à nous autres de pouvoir faire le pestacle. Hein. T'as joué un jeu dans tout ça?
Bah, il y a un truc global, c'est un truc un peu commun, quoi. Ça vient de plein de gens. Après, je pense
et
que...
Je sais, et je sais, excuse-moi de te couper.
Non, vas-y.
Je sais que si t'arrives à Click...
Eh ouais.
C'est grâce à Kian.
Et ouais.
Tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure.
J'étais en vacances avec Mouloud.
Ce qu'on disait sur l'entraide.
J'étais en vacances avec Mouloud.
Ce qu'on disait sur l'entraide, qu'on considère même pas comme de l'entraide, c'est juste de la normalité, tu vois. Tu as besoin de trucs, bah tiens, pense à lui. C'est comme moi quand Roman, je le croise au Paname, il veut jouer, bah tiens, j'appelle lui, tiens, tu vas jouer là-bas. Dans ma tête, je me dis pas, je t'aide.
Mmh. Et après, l'effort, faut que c'est à Roman de bûcher. C'est comme si je lui dis,
exactement.
Je t'emmène dans une école chambée, mais par contre, va bosser, quoi. Exactement. Je te paye l'école, mais va bosser. En fait, l'outil, il est là pour beaucoup d'humoristes. Hein. Il y a pas beaucoup d'humoristes et des fois on sous-estime l'outil et l'outil peut être très puissant si tu bosses vraiment 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 quoi.
Et puis en plus c'est dans les deux sens parce que qui a le plus rendu service à qui on sait pas.
Bah grave, moi je pense que je pense que t'as beaucoup apporté à Click aussi parce que c'est très résonnant sur les réseaux sociaux, très fort, t'as des millions de vues sur tes vidéos. On se dit ah putain il y a une émission avec Mouloud, tu vois, il y a plein de gens aussi qui connectent comme ça, donc c'est donnant donnant hein.
C'est exactement
on donne
ça.
On prend dans ce métier, on donne on prend.
Quand on arrive à installer ce genre de choses, c'est super. Quand je sens que Mouloud et son émission m'apportent quelque chose et que moi aussi j'apporte, alors là, t'as juste envie de continuer, t'as envie de te donner.
Moi, après, j'ai le coup de foudre avec toi à Montréal, vraiment, quand tu m'as regardé dans les yeux.
Ouais, je t'ai sucé après.
C'était formidable. Je voulais te remercier.
Fallait bien la faire, cette première partie.
Tu vois, quand on parlait d'entraide.
Mais ouais, je me souviens.
T'es directement rentré dans mon top 3 de fellation à Montréal un mardi.
Alors qu'à Montréal, ça suce très fort.
Non, mais c'était mortel. Il y avait ce coup de foot tout de suite. On était avec Navo, on nous a présenté, c'était chambé. Il y avait une évidence en fait, genre ah putain, il est cool, Roman. Puis encore une fois, c'est cette image de toi en train de bosser un matin. C'était un mercredi matin dans un café en train de manger un vieux croissant. Et non, c'était ton huitième café, je crois.
Ouais,
café.
Mon quatrième expresso.
Voilà,
et mon
c'est ça. Ouais. Voilà. Et t'étais en train de gratter. Et je me dis, bon, ce mec, il bosse alors qu'il n'a pas des chances. Quand il aura une chance, il s'est bossé. En fait, c'est des détails. Mais toi, tu as suivi ton exigence d'écriture. Je ne me rappelle plus, à Montréal, je crois que tu écrivais tous les jours comme ça.
Ouais,
tu sortais de toi des trucs comme moi, je faisais quand j'étais hôte d'accueil, en fait. Mm. Tu vois, on sort des choses. Ça s'appelle comment? De l'écriture automatique, c'est ça?
Ouais,
un peu, c'est
ouais.
Ça
un petit peu, ouais.
Tous les jours, tu te poses, tu ouvres ton carnet et tu vois ce qui sort.
Des heures et des heures. Là, chez moi, là, j'ai des piles de carnets comme ça. Ils sont juste plein de trucs.
Ouais, bah, tu vois, ça, c'est hyper utile. Et ben ça, c'est hyper utile, c'est de la matière. Mm. Et quand j'ai vu ça, Mood me dit, ah, j'ai un gars, je pense qu'il peut, rencontre-le. Je pense coup de foudre instantané.
Ouais, j'arrive le mardi, il me dit, tu commences jeudi.
Bah voilà, tu vois, et ça s'est fait en deux secondes. Et la suite, bah, tu la dois à toi, mec. Tu la dois à ton travail. Les gens, c'est toujours un...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
D'accord, c'est un coup de fil, c'est un truc bien placé. Ça peut aider. Mais dis-toi que moi, j'ai aussi des gens, tu leur dis, vas-y, fais ça, et ça ne matche pas. Ça ne matche pas du côté du producteur ou ça ne matche pas du côté de l'humoriste avec le producteur. Enfin, c'est dans les deux sens, tu vois. C'est une alchimie qui peut se produire, tu vois. Après, aider les gens, c'est juste un coup de fil, les gars. C'est pas,
tu non, vois. Mais c'est pas. En plus, c'est trop gros de dire aider les gens comme si tu l'avais sorti du ruisseau.
Exactement.
Pour moi, c'est comme si, chez ce que t'aimes comme musique, j'entends un bête de son, je dis ça va lui plaire, je te fais écouter le son, j'ai pas aidé Kanye West.
Ouais.
Mais
ouais.
C'est juste, j'ai recommandé. À un moment, tu connais Mouloud, tu sais ce qu'il cherche, tu rencontres Roman, tu fais, bah les gars, là, il y a une évidence
des
aussi.
Des évidences, ouais.
Faut vous tester, tu vois.
Grave. Et puis, il y a des gens, sincèrement, ils sont incontournables. Moi, quand je t'ai rencontré, on s'est dit avec Navo, ce gars est incontournable.
Bah, ça fait plaisir.
Que tu l'aides ou pas, il va marcher, c'est sûr, ça va péter.
Bah
c'est
oui,
sûr.
Bah oui.
Autant l'aider, comme ça, ce sera un peu grâce à nous. Vas-y, aide-le.
Ouais, ouais, mais c'est stratégique.
Aide-le, il va cartonner de toute façon.
Comme ça, moi, quand je suis un peu ringard, hop, je reviens vers toi.
Fais-lui 10 balles.
Vas-y, Roman, vas-y, fais croquer. Là.
C'est ça, en fait, ce qu'on fait. On regarde les mecs vraiment très marrants, mais qui ne sont pas encore connus. Oh, on y va, on trouve un truc, on fait. Tu veux 10 balles? Pourquoi? J'ai envie de t'aider, putain, laisse-moi donner 10 balles.
Ça va me revenir.
Comme ça, 10 ans plus tard, on vient en disant, tu m'as pas oublié, j'espère. Tu te rappelles quand t'étais dans le caniveau, quand je t'ai filé 10 balles? Et c'est ça, c'est notre retraite. On a décidé de ne pas prendre de retraite complémentaire.
Faut qu'on commence à faire ça, Sparrow. Faut qu'on retrouve.
Je te jure que moi, dans ma tête, parce que tu sais, on se pose la question de si ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais?
Bah
si
ouais.
Ça ne marche plus, qu'est-ce que
bah
tu
ouais.
fais
bah ouais.
Et moi, mon plan de secours, c'est que je ne reviendrai pas dans la vie active classique. Je pense que je vais rester dans le milieu de l'humour. Tu sais,
je vais devenir super-héros. Ouais. Je
sais
pas, c'est quoi lui.
Il y a des gens qui traînent dans l'humour, tu les vois tout le temps, mais tu sais pas ce qu'ils font. Je pense que je vais devenir comme eux.
Un parasite.
Je suis un genre de
parasite.
Manager d'humoriste.
Manager, presque manager. C'est pas des managers. Ils managent personne, c'est des presque managers. Ils viennent, ils te complimentent. Dire, lui, il est bon, il y a moyen de faire un billet. Je vais faire ça, moi. Je vais chercher des nouvelles pépites. Et je fais leur première partie.
Tu vas être découvreur de talent.
Ça s'arrête. Tu fais quoi, Roman, si ça s'arrête?
Je fais ça. Qu'est-ce que
ça s'arrête.
C'est trop dur.
Oh, moi, je suis pas fait pour rien, en vrai. La société n'a pas besoin de moi.
Clairement.
Je me suis toujours demandé s'il y a une apocalypse, c'est-à-dire que vraiment, il y a une bombe nucléaire, il y a que des survivants qui sortent du sous-sol, qui disent « Maintenant, on fait quoi ?» Il y a des métiers genre...
humoriste.
Non, mais humoriste, je pense que ça peut être utile.
Non.
Tu prends une palette. Mais si, parce que le soir venu, il va falloir faire marrer les gens. Parce que vraiment, il va falloir tout réparer et tout. Le soir venu, je crois que les gens, ils ont besoin
moi,
de se détendre.
Moi, je pense que c'est le soir venu, il n'y a rien à bouffer, on bouffe qui ? L'humoriste, c'est enculé, c'est
pas au point de te lâcher à manger.
Ah ouais.
Peut-être ils auront envie de rigoler, mais gratuit. Ils vont pas te dire. Bah, on avait vraiment besoin de rigoler. On s'est battu contre plusieurs zombies. C'était l'apocalypse.
Mais vraiment,
mais moi, je le fais gratuit. Moi, je le fais gratuit.
Mais tu meurs de faim, du coup. T'auras pas le temps de faire des
blagues. Grave.
Heureusement qu'il n'y a pas que des humoristes. Heureusement qu'il y a tous les gens, les vrais travailleurs. Non, je te jure, on fait comment? S'il n'y a que nous.
Mais
non, mais c'est pas possible.
Moi, je suis un profil de personne à une autre époque. Je ne subsiste pas. Ah, je n'apporte concrètement absolument rien.
Il n'y a aucune époque où on sert à quelque chose.
Heureusement
que la société part en couille et que les gens, ils ont besoin de rigoler.
Ah, mais ouais. Enfin, pas
on a pu se professionnaliser tellement ils sont tristes.
Tu fais quoi, ton avocat? Demain, c'est bon, ça s'arrête.
Ouais, je pense que je suis obligé. Tu sais, moi, je lutte beaucoup pour jamais manipuler personne. Bon, bah tant pis, c'est l'apocalypse, je remanipule tout le monde. Ouais. Moi, je deviens un leader.
Je suis d'accord. Ouais. Je deviens un gourou. Je deviens un fucking gourou.
Tu vois, les...
Sur des motos, c'est lui qui monte Mad Max.
Tu vois, les plus gros bâtards du métier, les producteurs les plus méchants, là, les gars qui arrivent à manipuler tout le monde, je deviens eux. Tu sais, moi, je me refuse, mais là, je dis, bah, c'est la... comme si j'étais musclé, je voulais jamais me taper. Là, c'est l'apocalypse, je mets les droites. Bah, là, je réactive mon cerveau, je fais, allez, c'est parti. Hey, Roman, tu sais ce qu'il a dit sur toi, Ahmed? Donne-moi un œuf dur, je te le dis.
Ah, tu deviens. Hey,
ils sont où tes guns? Ils sont où tes guns? Tu es sûr que tu les as? Parce que Roman, il voulait les voler.
Ah ouais?
C'est sa daronne qui lui a dit: fais gaffe.
Attends,
à sa daronne.
Tiens, voici un œuf dur. Daronne. C'est la modèle. Tout le monde, l'apocalypse, c'est l'œuf dur. L'or, c'est l'œuf dur.
Je suis la zizanie dans.
Pour combien vos œufs durs? C'est 3 œufs durs pour un œuf dur.
Ok,
tu payes des œufs.
Moi, je suis house of cards. Aucun talent à part.
Tu m'as donné une omelette.
Ouais, non, moi,
ça va le bruit de cette personne?
Alors ouais, Thibaut,
les travaux sont permanents en fait dans cette putain de ville.
Ah ouais, bah
ouais,
ça s'appelle,
mais tu viens de Montréal en même temps.
Ouais, à Montréal, laisse tomber. Où elle a jamais été vraiment finie. Mais c'est abusé. Moi, j'ai l'impression que partout où je vais, j'entends une perceuse.
Ouais, ouais, bah ouais, mais je crois que le business de la perceuse, il est jamais. Il faut habiter dans des perceuses, les gars.
Ah bah c'est quoi, l'humour, ça s'arrête, je fais ça. Je vends des perceuses.
Je vends des perceuses. Franchement, moi, je fais du béton. Moi, je fais du béton là, t'es sûr?
Non, mais la perceuse silencieuse, les amis. On est
tout
milliardaires,
monde se lève, là. Tout le monde se lève et part.
C'est vrai, t'as dit ça comme si c'était simple à inventer. Non, mais la perceuse silencieuse,
bah ouais.
Il suffit maintenant de trouver un moyen.
Comme les flingues, tu mets un truc comme
silencieux. Tu mets un coussin pour les anciens.
Un coussin?
Je ne travaille pas avant quand il n'y avait pas de silencieux, mais t'as un coussin.
Avant, t'as dit ça comme si on y était. Mais pas avant, comme
on se rappelle.
Quand on était tueur à gage au Pérou.
Oui, ouais. Ça y est, je me souviens.
Exactement ça.
Je me souviens.
Comédie musicale. Tuer des gens, stand-up.
Eh oui, quand on faisait la chasse aux nazis en Argentine.
Chicha,
il a combien de vies, Sparrow? C'est pour ça, Sparrow. Il a été pirate, c'est sûr.
J'ai pas mal bourlingué. Ouais.
Moi, je sais pas si je vais continuer longtemps le métier, genre vers 45 piges. Je sais pas encore, dans ma tête, je me dis.
Préviens-moi 5 ans avant, quand même, parce que t'es
la
source principale de revenus. Que je me.
Que tu te.
Je redescends en train de vie, peut-être.
Qu'il en trouve un autre.
Que j'ai appelé Roman. Que je commence à dire. Alors, Roman, c'est pas chiant d'écrire tout seul, ça, tu vois.
Tu te rappelles au début, quand on t'a donné ta chance, hein? Non, c'est. Je sais pas, je me vois bien à un moment donné. Je sais pas, là, c'est le deuxième spectacle, vraiment, c'est cool. Le troisième, je sais pas si j'aurais 4 spectacles à livrer dans ma vie, tu vois, ou 4 spectacles d'affilée, tu vois. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire une pause et laisser la vie te remplir un peu plus, quoi, tu vois. Et je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, maison de campagne et voilà.
On dirait que t'essayes de me quitter. On dirait vraiment,
ouais, c'est ça. Là, ouais. Je voulais te le dire. Non, mais je pense que vers 45
ma meuf, quoi,
ans, je vais me
quitter, mais gentiment,
plus, tu vois.
À un moment, faut peut-être une.
Je sais pas si je pourrais faire ça toute ma vie.
Bah, si. Moi, je ferais partie de ton entourage qui t'oblige à faire des spectacles jusqu'à épuisement, jusqu'à que ce soit plus drôle. Tout le monde dit il est devenu ringard, mais moi, je continue d'être blindé.
Même si tu fais pas de spectacle, tu feras autre chose.
Ouais, je pense.
Des séries, des films.
Ouais, t'as raison. C'est vrai qu'on est.
Projets, reportages.
Mais j'ai cette peur. J'ai cette peur d'être usé. De me dire, je suis en train. Il y a un truc qu'Aurel San dit dans ses chansons, c'est s'auto-parodier, tu vois. Et à un moment donné, dans un cycle, tu commences à t'auto-parodier. Tu refais du toi, mais en te moquant de toi, du sous-toi. Ouais. Tu es le leader price de toi-même, tu vois.
Sont devenus les stars de ma jeunesse, mortes ou devenues des parodies de même.
Voilà, c'est ça. Et j'ai pas envie de m'auto-parodier, tu vois. Et donc, je suis assez vigilant à ça.
Ouais,
je dire, ok, est-ce que j'ai pas tout dit maintenant? Est-ce que je peux partir un peu?
Je me pose la question.
Après, ça, c'est une vision en tant que Français. Tu sais, aux États-Unis, je pense pas qu'ils se posent cette question parce que là-bas, tu peux faire du stand-up jusqu'à 60 ans, 70 ans. Est-ce qu'ils ont un public? Est-ce que nous, on va pas, avec le temps, avoir un public même pour les cinquantenaires, les gens qui ont 60 ans, 70 ans? Est-ce que le public ne va pas nous accompagner aussi?
Oui, puis je reste persuadé quand même qu'à 60 ans, tu peux faire un contenu qui plaît à tous les âges.
Non, mais tu sais, aujourd'hui...
Non, mais en plus,
de toute façon, tu vieillis avec un public. De toute façon, tu peux vieillir avec des gens.
Mais c'est comme nous, on va être là, on va faire du stand-up au Théâtre des Deux Ânes avec des gens de 60 piges, on va rigoler entre nous. Et les jeunes, ils font des trucs avec des hologrammes qu'on ne comprend pas. Ils disent, ouais, ils sont tellement ringards. Ils font des blagues d'observation et des trucs surréalistes.
De ouf.
On va vieillir et tout.
Je sais pas. Il y a une meuf qui m'a dit sur Instagram récemment, elle m'a dit... J'avais partagé un épisode sur... C'était le documentaire sur la dépression et les comiques. Vous l'avez vu, ce truc-là, avec Sarah Silverman, Neil Brennan et tout. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et c'était assez touchant où, tu vois, les comiques sont des gens plus lucides et qui sont très sujets à des dépressions depuis qu'ils ont 15 ans et tout. Je sais pas si c'est un truc qui vous parle. Vous n'avez peut-être pas envie d'en parler, mais... Elle a vu le documentaire et après elle m'a écrit, elle m'a dit, tu sais, Kian, t'es pas obligé d'être un humoriste toute ta vie, tu peux aussi vivre ta vie. Tu vois, t'es pas obligé de j'avais trouvé ça hyper touchant, t'es pas obligé de te sacrifier pour nous faire rire, tu peux aussi à un moment donné arrêter et faire ta vie. Et dans ma tête, j'avais jamais envisagé ça de ma vie. Ça fait 15 ans que je me tue à la tâche pour faire marrer les gens.
Blague.
Que je me tue d'ailleurs, que je me vis à la tâche. Tu vois, des fois, je nais d'ailleurs à chaque soir, je renais un peu. Et je me dis, mais bah ouais, c'est vrai ça, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça tout le temps? Pourquoi je ferais ça tout le temps? c'est pas con. Et j'ai trouvé ça intéressant, tu vois, parce que quand on voit les carrières, on se dit, oh, le mec, pendant 40 ans, il a fait ça. Et c'est vrai que c'est addictif, mais qu'est-ce qui m'empêche de... Après, je pense que si je fais une pause de 3 mois, 6 mois, c'est cool, mais au bout de 8 mois, je vais faire genre, donnez-moi, j'ai des blagues, j'ai trop de trucs à dire. Je trouve ça intéressant de dire.
La peur de dire, si j'arrête trop longtemps, je vais être has-been.
Ouais, c'est vrai.
Après, moi, le vrai truc là qui me chiffonne, pas qui me chiffonne, mais il y a un truc de hargne aussi, moi, que... Je pense qu'il faut se connecter avec des trucs que tu fais parce que, genre, ça te dépasse. Tous les efforts qu'on a tous mis pour arriver
pour surfer statut. La vague. On a atteint la vague.
Et à un moment donné, moi, aujourd'hui, je suis dans une vraie recherche de défis. Je me dis, bon, qu'est-ce que vraiment ça me fait kiffer de le faire? Pas qu'est-ce qu'il faudrait faire, ou qu'est-ce que je pourrais faire, ou qu'est-ce qui serait sympa de faire.
Après, moi, j'ai bossé avec pas mal d'humoristes. Tous ceux qui ont fait une pause ou qui ont dit, vas-y, c'est bon, j'arrête. En vérité, au bout de 3 semaines, ils se font liège. Arrête pour toujours. Après, je note dans mon agenda. Au revoir dans 2 mois.
C'est trop dévastateur.
La vie est tellement intense. La vie est tellement.
C'est juste le fait de te sentir obligé, ça fait que t'as plus envie de le faire. Dès l'instant où on t'oblige plus, tu dis, mais c'est ça que je voulais faire depuis le début.
Je voulais faire des blagues, moi. Comment je vois les stand-uppers, moi? T'as vu Matrix? J'aime bien les références de films. Pour moi, les stand-uppers, c'est des gens qui sont sortis de la matrice. C'est comme ça que je nous vois. On est déconnecté du monde, de l'autre monde.
Déjà en termes d'horaire, en termes de manière de prendre les infos, gérer les émotions.
En fait, c'est un truc que j'ai réalisé et il faut vraiment prendre conscience qu'il y a des gens, chacun est heureux à sa place en fait.
Bien sûr, tu vois,
il serait méga malheureux totalement. À ta place. Parce que après, ne pas savoir comment tu vas gagner ta vie le mois prochain, ne pas savoir ce que tu vas faire
Mon
demain.
Mon frère, lui, il est incapable de se dire, lui, c'est tellement ordonné dans sa tête qu'il sait qu'il faut qu'il travaille parce qu'il faut qu'il paye son loyer, ça, tout est réglé dans sa vie. Moi, c'est là, je suis l'opposé, moi.
Ouais.
Mais en fait, c'est parce que tu es dans une catégorie de ton travail, ton art, c'est de te décaler par rapport aux autres. Donc forcément, vu que c'est ton travail, tu te décales. On est là, on se décale tous en même temps pour aller regarder les autres. Après, quand on regarde les autres, on est là, ils sont tellement pas décalés.
Je crois que nous, on est payé à regarder la vie des autres.
Ah, mais c'est ça.
Ouais.
Et puis il y a ce truc.
Je crois que c'est Donnel, non, qui disait ça. Qui dit, en fait, nous, on est. En gros, les gens, ils nous payent pour qu'on ait le temps de réfléchir à des trucs.
Ouais.
Et aller leur dire, on leur fait un résumé. On leur dit, c'est pas normal ça, tu vois.
Ouais, puis il y a un truc de l'observation, en fait. Toujours se placer dans chaque situation un peu à l'écart. Hier, j'étais à une soirée où il y avait un gros spectacle. C'était super magnifique, plein de musiciens. Et t'as toute la salle qui a les yeux rivés sur la même chose.
Le truc.
Et je me tourne et je vois un humoriste. C'est le seul, il a les bras croisés et c'est le seul qui regarde le haut du chapiteau. Et tu dis, c'est là que tu reconnais l'humoriste.
C'est tellement l'histoire de ma vie.
Et ce qui est marrant, c'est que cet humoriste-là, là, il est dans une émission en train de dire, et là, je vois Roman, c'est le seul, il regarde Wham. Alors qu'il y avait un bête de spectacle.
Il y a un bête de spectacle, et c'est exactement ça. Et tu vois tout le monde qui regarde dans la même exacte direction, parce que c'est là que l'attention est portée. Et à un moment donné, il y a des gens, ils vont se mettre à regarder autre chose, ou à essayer de... Et il y a des gens qui ne s'en décrochent pas. Et je pense que nous, on fait ça un peu tout le temps. Et qu'on change de truc, on aime bien avoir un point de vue sur les choses différents. Et donc, mais ça nous déconnecte.
Quand j'étais gamin, quand j'allais voir des spectacles, j'écoutais, je me demandais, les gens applaudissaient pour le spectacle, et moi je me demandais qui provoque le premier applaudissement et qui provoque le dernier en fait. Quelle est la sélection? Et je voyais vraiment la salle, je me dis mais qui va faire le premier et le dernier? Il y a forcément un dernier dans le timing, il y a forcément un premier dans le timing. Mmh. Et je pensais à ça plutôt que au mec qui se tuait devant nous. Genre ça va les gars, j'en ai fait des chichas, putain écoutez-moi maintenant. Putain. Et j'étais pas dans le spectacle, j'étais dans l'écoute du public.
Ouais, on regarde autre chose.
Les gars, j'ai un petit truc à vous proposer maintenant. Là, vous avez de plus en plus accès aux médias. On vous voit dans les médias, vous faites des interviews. Vous demande votre avis de plus en plus. Et
alors, vous êtes soi-disant décalé sur le monde.
Désolé les gars, on va se reconnecter à la vie.
Et votre travail, c'est de nous faire rire avec votre décalage.
Je sais que moi, j'ai fait des interviews et à chaque fois, je fais une interview en direct et je me dis, oh merde, j'ai dit ça, ça se trouve sur Twitter, ils vont dire ça, ça y est, c'est parti. Oh non, ma carrière est terminée. Et c'est pour ça que je voulais vous proposer une interview anti-dérapage. C'est-à-dire que je vais vous proposer des phrases, vous allez les commencer, vous allez imaginer que vous êtes en direct sur TF1, 3 millions de téléspectateurs, tout Twitter est devant, il y a 15 millions de personnes sur Twitter qui sont prêtes à tweeter ce que vous allez dire. Je vous donne les débuts des phrases et là, vous êtes en plein dérapage, il va falloir pas déraper.
C'est une phrase chacun ou...
Une phrase chacun, chacun aura une phrase. Vous êtes prêts, je vous les donne.
Ouais.
Roman, on commence par toi.
Okay, c'est
vas-y, c'est parti, tu lis la première.
Tu lis la première, t'enchaînes tout de suite.
Tu lis la première, vas-y. T'es obligé de le dire. Vas-y, Roman, fasciné, on est là pour votre nouveau spectacle, dites-moi.
La première phrase.
Roman, c'est parti.
Pour moi, la meilleure raison de frapper une femme...
Oui, Romain. Ah,
c'est
ouais,
c'est si pendant...
Pardon, Romain.
L'acte, si pendant...
Pardon, Romain, vous avez dit quoi, là?
C'est si...
Romain Refrosinel, qui est en tournée, d'ailleurs, qui a beaucoup de dates. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il veut nous dire?
Alors, pour moi, la meilleure raison de frapper une femme, c'est quand elle en a profondément envie et qu'elle le demande et qu'elle certifie par écrit qu'elle le veut et que mon avocat atteste et huissier que c'est elle qui a demandé... Et encore pas très fort, quoi.
Mais oui.
Je pourrais pas, en fait, moi.
On rappelle que vous êtes en tournée, d'ailleurs. Et merci, Romain, d'être venu sur ce JT. Merci infiniment. Merci
là,
beaucoup.
Là, je suis dans la merde. Antidérapage zéro, là.
Mais toi, si, t'as antidérapé de ouf.
J'ai pas antidérapé.
T'as découvert. T'as découvert.
T'as clairement antidérapé.
Ça va, c'est pas mal.
Avant de mettre la prochaine, vas-y. D'abord, c'est à...
À moi.
Attention, Abed Sparrow, vous êtes là pour votre spectacle, faire votre promo. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Moi, j'ai un message clair à envoyer à la police. C'est vraiment, vraiment, vous faites très bien votre boulot.
C'est un peu démago, mais
en tout cas, vous êtes en tournée, vous avez un spectacle, je crois, en ce moment.
Ouais.
C'est très bien de soutenir les forces de police comme vous le faites, en tout cas, bravo.
Ah, bah, c'est comme ça. Hein. J'ai toujours eu des bons rapports avec eux.
Roman, je tenais à vous dire, vous êtes là pour la Fondation des Orphelins. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à ce sujet?
Et c'est pas bête quand Éric Zemmour dit que.
Pardon, Roman, excusez-moi. Roman,
c'est pas bête quand Éric Zemmour dit salut. Tu sais, quand il s'en va à la fin. Bah, c'est pas bête, moi je pense qu'on devrait rester.
On devrait le faire dès le début.
Voilà, moi j'aime bien le moment où il dit salut, quoi. Le moment, c'est à la fin où il serre les mains. C'est pas bête quand il s'en va.
Ah ouais.
C'est vraiment pas bête.
Écoutez, merci Roman, merci d'avoir donné votre pensée, en tout cas, ça fait vraiment plaisir.
Je suis là.
Vous êtes quelqu'un d'extrêmement qualifié dans l'interview, et ça, je tenais à vous le rappeler.
Ah bah j'ai une certaine maîtrise.
On passe à Ahmed Sparrow qui est là pour son nouveau film, d'ailleurs, je crois.
Bah le sida, ça a apporté des choses formidables. Hein,
ah bon Ah. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là, Ahmed?
Comme le film Philadelphia, quoi, je veux dire. C'est quand même classique du cinéma.
Et ça valait le coup.
Je sais pas si ça valait
le coup.
Mais
ça valait le coup que le sida existe.
Non, mais ça a apporté certaines choses formidables. Comme Philadelphia, les capotes.
Impossible de s'en sortir.
Je sais pas quoi dire. Ça a révélé Denzel Washington, quoi. J'ai pas de.
Bah très bien. On rappelle que votre spectacle, d'ailleurs, vous pouvez faire une promo du coup, parce que vous êtes quelqu'un de plutôt, voilà, vous avez parlé d'un film qui est magnifique. C'est vrai que vous avez fait un film magnifique.
Fait un super film.
Quel est votre promo, Ahmed Sparrow?
Moi, je joue tous les samedis à partir de janvier à l'Apollo Théâtre.
À l'Apollo Théâtre. Bah, merci beaucoup. Vous êtes quelqu'un de bien. Merci beaucoup.
C'est devenu l'humoriste préféré des Français.
Ouais, on a un sondage.
Roman Fraissinet, qui est passé premier humoriste préféré des Français, qui va nous faire une déclaration. Roman.
Alors moi, je trouve qu'il y a trop de Noirs et d'Arabes dans les contrôles de police. Et que
c'est une vraie prise de position.
Les origines ethniques ne devraient pas être un critère pour suspecter un individu. Je trouve dégradant, quoi.
Vous me faites penser à Daniel Balavoine, et ça nous fait vraiment plaisir. Vous êtes un artiste engagé.
Bravo. Engagé par qui?
N'oubliez pas. Ne prenez pas l'hélicoptère.
Moi, il y a quelque chose là, parce que les deux, j'ai bien envie de vous voir essayer là. Vous allez me faire l'antidérapage pour moi, la meilleure raison de frapper une femme. J'ai très très bien envie de voir l'antidérapage que vous allez faire là-dessus. Là.
Pour moi, pour nous, la meilleure raison de frapper une femme, c'est si elle a une guêpe sur l'épaule. Et qu'on veut lui enlever cette guêpe.
Ils ont révisé les bâtards.
C'est la seule raison.
Ils ont révisé les bâtards.
Voilà. Bien, parce qu'on est des auteurs et qu'on a écrit les blagues et les punchs juste avant. Donc on est...
Moi, je me suis embourbé dans un truc.
Non, mais en plus, moi,
d'avocat. J'étais dans un truc d'avocat et tout.
J'en ai une, moi. Allez, bien, celle-là.
Vas-y. Écoute.
Vas-y.
Alors, vous, c'est la phrase que vous devez finir. Hein. Pour moi, la meilleure raison de détester une femme voilée.
Pour moi, la meilleure raison de détester
une femme voilée, c'est qu'elle...
En plus, il l'a bien tourné. Parce qu'en fait, il y avait la sortie de dire si elle est obligée. En fait, c'est pas elle que je déteste si elle est obligée. Donc, pour moi, la meilleure raison de détester une femme voilée, c'est s'il s'avère que finalement, c'est un terroriste déguisé dans une salle de spectacle, car je trouve honteux qu'il utilise des codes précieux de l'islam pour se dissimuler à nous, sans pour autant valider le fait qu'il faudrait que les femmes n'aient pas le voile dans l'espace public sous prétexte qu'on ne pourrait plus détecter les terroristes. Je joue tous les lundis. Le mec sent qu'il a fait une belle sortie.
Bien joué, les gars, vous avez bien réussi l'interview anti-dérapage. Bravo, les gars, bravo. Il y a vos carrières qui vous attendent juste à la sortie, vous pouvez les rejoindre.
Elles sont encore vivantes.
Bravo les gars, c'était très très bien. mener. J'aurais parlé encore de deux sujets avant de clore un peu cette émission. Vous avez tous les deux, on parlait de la police tout à l'heure dans l'interview là. Vous avez tous les deux des petits soucis avec la police, je crois, en ce moment. Est-ce que vous voulez en parler déjà?
Non, moi c'est pas des petits soucis. Moi, il y a l'histoire de l'amende. Là, j'ai pissé sur un arbre. On m'a mis 68 balles. T'étais là, c'est vrai.
Témoin de la pisse.
J'ai pris 68 balles alors que en plus j'avais laissé passer un monsieur aux toilettes avant moi et je me suis dit vas-y, je vais le laisser passer, je vais pisser sur un arbre. J'ai pris 68 balles.
C'est-à-dire que t'aurais pu pisser sur un vieux et t'as préféré pisser sur un arbre.
Bah ouais.
Je vais laisser passer le vieux.
et j'ai. En fait, moi, il y a un vrai truc. C'est que tu vois, à Londres, on était ensemble à Londres aussi. Ah, yeah. À Londres, on était ensemble, là, on est en train de. J'ai acheté des caleçons et j'avais des. Les antivols, ils les avaient laissés dessus. Là, nous, on se chauffe, on a écrit Douane Bouguerraba, on se dit, tu sais quoi, demain, on va acheter des marteaux, on va faire une vidéo.
C'est quoi des marteaux?
Des vrais marteaux.
Ah, des marteaux, ouais.
Et on va faire une vidéo sur Instagram où on casse les antivols. Là, le lendemain, il y a Redouane, Sparrow et moi, on est sur un banc au milieu de Londres en plein jour avec
Notting
des marteaux.
Notting Hill, c'est un quartier très chic.
Ouais, comme
quartier,
dans le film, quoi.
Ouais, quartier chic, en train de crier et de casser à coups de marteau sur un banc des antivols. La police arrive et ils ont été adorables. La police, ils arrivent, il y a trois mecs masqués, parce que pour le délire, on s'était masqués, en train de casser à coups de marteau des antivols sur un banc. Est-ce qu'on peut faire plus suspect que ça? Et sans préciser qu'il y a certains étaient basanés.
Basané en anglais.
Mais si tu transposes cette situation, tu sais, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit excusez-moi, on nous a appelé, est-ce qu'on peut juste savoir ce qui se passe? C'est ça. Ils sont pas partis du principe qu'on était en train de faire. Tu vois, ils ont pas mis sur nous des choses de leur imagination.
Ouais.
Ils ont voulu voir des faits. Donc ils sont arrivés, ils ont dit bonjour messieurs, est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites? Là, nous, on réalise que c'est un peu chelou. On leur dit la vérité. On dit, écoutez, on est des humoristes. On fait une vidéo. J'ai les tickets de caisse des caleçons. Je les ai achetés. Et là, ils font, ah, ok, cool. Juste, faites un peu moins de bruit, s'il vous plaît.
Ils sont arrivés très cool. Ils sont arrivés les mains en l'air. Alors que c'est eux, la police. Ouais. Ils sont arrivés, ils disent, are you ok? Comme ça, genre.
Tu vois, tu l'as fait.
Je l'ai fait au final.
Et c'était vraiment très cool.
Tu vois, alors que cette situation en France, là, en vrai, on ne nous aurait pas posé beaucoup de questions. Je pense qu'on serait arrivé du principe que, tu vois, ça aurait été, je pense, beaucoup plus agressif.
Mais déjà, il y a des gens, ils marchent, après, ils se font taper, déjà.
En fait, je dis pas que. Moi, j'ai pas de problème avec la police. Je trouve que la police, c'est un très, très beau métier. Tu vois, et puis.
Mais t'as grandi où?
Moi, j'ai grandi dans 94.
Et c'était un beau métier aussi
Bah oui, moi j'ai beaucoup de respect pour les.
Tu veux dire en général
Oui, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça de leur vie.
C'est quand même un dévouement. C'est quand même une carrière. C'est comme les infirmiers, les médecins.
Si j'ai un problème, je vais appeler la police. J'ai besoin de ces gens-là. Je trouve que c'est un investissement.
Dans beaucoup de corps de métier, c'est plus le même dévouement qu'à l'époque. C'est comme les profs aujourd'hui. C'est la planque pour eux, tu vois.
Tu crois vraiment parce que moi, j'ai une amie qui est prof, c'est sa life entière.
J'en connais.
Ouais,
j'ai bossé beaucoup,
elle a 3 ans de professeur.
J'ai bossé beaucoup, moi, dans des collèges et tout. Tu vois des profs, tu sens que, voilà, quoi. Il vient, il fait ses horaires, il rentre chez lui. Ça a changé. Et je pense que.
Tu crois vraiment que ça a changé parce que est-ce que tu crois pas que ça avait déjà changé dans les 70 et on dit toujours ça a changé ou c'est les gens changent quand ils évoluent, ils se disent, bon, bah maintenant, j'avais des rêves. L'école, c'est pas finalement, je suis pas le mec idéal. Donc finalement, je vais me résigner un peu. C'est peut-être des gens qui sont résignés finalement, plutôt que de dire aujourd'hui ça a changé.
D'ailleurs, je vais te donner un exemple tout con. Aujourd'hui, dans l'éducation nationale, on met des profs qui sont là sous contrat et qui ont même pas le diplôme encore. Tellement on est en galère de profs.
D'accord.
Tu comprends? C'est-à-dire que du coup, il y en a qui viennent vraiment parce que t'as tes vacances, tu travailles peu et t'as ton salaire. Ça a changé autant chez les profs que chez les parents. Dans l'éducation avec les enfants.
Donc, c'est plus le système qui est à revoir que la dévotion des gens dans leur métier.
Mais en fait, plus ça va, moins. En fait, c'est compliqué. Je pense qu'à un moment, tu atteins chez les keufs, je pense que là, plus ça va. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de parler avec des gars, ils disent, moi, j'étais keuf, j'ai arrêté. Ça fait plusieurs fois que je vois des gens qui me disent, j'ai arrêté à cause des autres keufs. Et je pense qu'à un moment, en fait, il y a une bascule. C'est qu'à un moment, si tu fais de l'humour, mais tous les gens avec qui tu fais de l'humour, c'est que des gens avec qui tu n'es pas d'accord. Tu pars et finalement il y a que ceux qui sont d'accord entre eux pour tu vois et je pense que là c'est il y a un aller-retour perpétuel où les gens détestent les keufs et les keufs à force détestent les gens qui fait et puis après aussi je pense que c'est pas les mêmes témoignages en fonction de c'est rarement des noirs et des arabes qui me disent les keufs c'est quand même un beau métier c'est important parce que t'as pas la même expérience de
moi j'ai jamais été contrôlé de ma vie par une fois. Mais c'était juste parce qu'il y avait un barrage. Donc, ils ont arrêté les gens, mais je ne me suis jamais fait arrêter par la police. Moi, jamais de ma vie.
J'ai du recul. Bah, alors, aujourd'hui, je te parle de ça il y a un ou deux mois, je crois. Moi, j'habite à Saint-Maur. J'ai grandi à Champigny. Et j'habite à Saint-Maur. C'est une ville collée à Champigny. C'est une ville très...
Ouais, c'est un peu de Neuilly de 84.
Très bourgeoise, tu vois. Et la semaine où j'emménageais là-bas, j'ai dû me faire contrôler peut-être 4 fois, mais sans aucune raison. Je te parle là, il y a 2 mois encore, je me fais contrôler peut-être 3 fois dans la semaine et ça fait 2 ans que je suis là-bas. Quand je me fais contrôler, moi, je suis en règle. Je me fais contrôler sans aucune raison. Donc, je demande la raison pour laquelle je me fais contrôler. Je lui dis, pourquoi vous me contrôlez ? Et il me dit, vous avez mis un peu trop de temps à démarrer au feu vert.
Excuse-moi, c'est débat.
Non, mais tu vois ce que je veux
c'est
dire ou pas ?
C'est vraiment marrant. Bah, c'est très marrant.
Mais tu te rends compte ou pas ? C'est-à-dire, le moins, ils n'ont pas de prétexte pour me contrôler, mais ils me contrôlent. Je reviens le lendemain, le soir, je rentre chez moi. Pareil, ils me recontrôlent. C'est les mêmes. Ils me contrôlent. Et ils me disent, mais je vous connais, vous ? Je lui dis, bah, vous m'avez contrôlé hier, vous savez très bien qui je suis.
Excuse-moi, je rigole, mais c'est... comment non, mais tu le racontes ? C'est vraiment marrant.
Et le pire, et après, ils fouillent dans ma voiture, et ils voient des flyers, ils disent, ah, vous êtes humoriste, ok ? Et ils m'ajoutent sur Instagram. J'ai des keufs qui me follow sur Instagram, on se follow back, et il me dit quoi ? Il m'envoie des Insta vidéos de mon flyer dans le bureau du commissariat, accroché, genre, à aller voir en spectacle.
Ce serait pas trop des bars que t'as un buzz de ouf au niveau des keufs, des grâce keufs, au contrôle.
Grâce
et
au contrôle.
T'encourages, bah, les gars, grâce au contrôle, je suis en méga codé. Vois,
mais ouais. Du coup, pour le coup, moi,
vous l'avez vu en contrôle.
Ouais. Vous l'avez vu en contrôle.
Oui, je l'avais vu en contrôle, il était super. Tu te rappelles, on l'a contrôlé.
Ça, on va le voir en spectacle, il est super, Ahmed.
Il est super cool.
Il joue à la chicha ce soir,
mais comme ça. Mais tu sais, aujourd'hui, tu roules la nuit, tu démarres un peu lentement au feu vert,
ouais.
Et t'attrapes tous les keufs comme quand tu fais des fly.
Non, mais t'imagines, c'est qu'aujourd'hui, en fait, là où ça me fait mal à moi, c'est que j'ai plus l'âge de me faire contrôler par la police. Tu vois, on te sort de la voiture, on te colle contre la voiture, on te fouille, il y a des gens qui passent, tu passes pour un délinquant, alors qu'à la base, t'allais juste au travail. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste ça qui est chiant. C'est juste que, voilà, une fois, pour de vrai, je suis avec ma nièce, c'est un enfant, ma nièce, elle a 9 ans. Je roule, je suis en voiture, je la regarde, il y a la police. Au feu rouge d'après, donc moi je suis au feu rouge, je lui dis t'as ta ceinture, elle me dit oui, pourquoi ? Je dis on va se faire contrôler, tu vas voir. On roule, il y a plein de voitures avant nous.
Là, ils je fais un regardent, dérapage,
j'arrive, ils me regardent et ils me font ça. Je connais ce geste, ça veut dire garde-toi, on va te contrôler, c'est l'arabe.
T'as fait une école de comédie musicale, non ?
J'ai fait une école de comédie musicale.
C'est très stylé, hein.
Ouais, ça, ils
le font pas aussi stylé.
En cours de danse, on appelle ça attitude. Et du coup, je savais qu'on allait faire. Tu imagines quand tu sais que tu vas te faire contrôler,
c'est tragique.
C'est fou, hein.
Mais c'est dommage. Ah ouais, on n'a pas un bon rapport. Parce que non, pour avoir tellement un bon rapport
avec.
J'ai fait
des centaines de milliers de kilomètres en voiture, je ne me suis jamais fait contrôler une fois.
Mais alors, le pire, moi, je ne me suis jamais embrouillé avec la police, je suis toujours très cool. Mais à un moment donné, des fois, ça me saoule. Tu sais, t'es fatigué, l'autre fois, ils me contrôlent, j'avais mon spectacle, tu me fais perdre du temps, tu vois. C'est juste ça, en fait. Moi, je veux bien que tu me contrôles. J'ai été. Tu vois, aux États-Unis, au Canada, ils te contrôlent jamais.
Ouais.
Ils te contrôlent que si t'as fait une infraction. Bah ouais, mais t'as pas fait une infraction, me contrôle pas.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ?
Donc ça fait partie d'une sorte de pression ambiante pour toi. Ça, c'est vraiment un truc compliqué.
Mais je pense que t'as pas le droit.
Encore une fois, on peut pas généraliser tout ça, mais on peut constater ça.
Bah, il y en a, genre, moi, quand je roulais dans mes débuts avec mon permis, j'avais toujours le sentiment que je pouvais me faire arrêter alors que je suis en règle. Hein. Mais j'avais, dès que je les croise, alors que j'ai rien à me reprocher. Tu vois pas ?
Ouais,
parce que depuis tout jeune, je me fais contrôler. Big up à Yannou du commissariat de Saint-Maur.
Qui vient me voir d'ailleurs après-demain. C'est
comme ça qu'il s'appelle Yannick.
Et c'est vraiment
ouais.
Et vous êtes resté en rapport aussi, vous
avez discuté, ça fait des barres
et
tout.
Ah bah, tu vois.
Mais depuis vu que maintenant vous avez sympathisé, tu lui as demandé si finalement il passait son temps à contrôler des Arabes ou...
Lui, c'était le plus cool de la brigade.
Ouais, mais est-ce que lui, il sait ce qu'il est en train de faire quand il le fait ou pas ?
Tu sais, le pire, c'est quoi ?
Mais pour de vrai, il peut te mettre dans le secret. Tu lui dis, mec, quand tu m'as contrôlé, c'était vraiment parce que j'ai démarré en retard au feu vert ? Ou tu vas m'expliquer ce que
c'est pas lui qui a décidé le contrôle. Lui, il l'accompagnait, ouais. Mais je pense que, parce que l'excuse qu'il me donne à chaque fois aussi, il me dit, vous avez une Smart.
Ouais,
c'est genre, soi-disant, c'est une voiture de dealer.
Quoi ?
Ouais. Mais moi, c'est une voiture pour Paris, en fait.
C'est-à-dire une voiture de dealer ?
Ouais, bah, ils disent
que c'est un dealer maintenant. Pour moi, c'était une Mercobène.
C'est ce qu'ils disent.
Ça marche moins le deal, hein.
Ouais, c'est la galère là.
Non mais grave, tu vois.
Regarde, j'ai une nouvelle Smart, la 4 places, mon frère. Waouh, ça va vraiment.
Non mais
marcher,
pour le coup, c'est que celui qui a décidé du contrôle, je crois que c'était un robeux. Donc c'est même pas une histoire de race ou quoi. Je pense que c'est une histoire de comment il fonctionne en fait.
Ça peut être raciste même venant d'un.
Oui, non mais c'est.
Il a pu intégrer le délire.
En fait, ils ont intégré le. Faut contrôler ce genre d'individu.
Je sais pas si t'as déjà croisé un videur en boîte.
En général,
il n'est pas blanc, mais c'est un peu raciste quand même son système de choix. C'est pas le sien, mais c'est celui d'un système, quoi.
C'est Farid qui m'a... La meilleure blague sur les videurs, c'est Farid. Quand il dit, si moi je rentre pas, toi tu rentres pas. je vais bien saper, toi, t'es habillé avec un 3/4 en cuir. C'est sûr, je te fais pas rentrer.
J'ai un jeu à vous proposer, les gars. C'est, j'ai un magnifique livre de blagues d'auteurs américains.
Il s'appelle « Les 100 meilleures blagues de Carlos
». C'est dans la Comédie des Horus. Et en fait, c'est par thème. Et il y a des blagues, elles sont répertoriées par thème. Et il y a un thème, c'est la police. Donc, c'est des blagues d'Américains.
D'Américains ou de Noirs Américains ?
De Noirs Américains. Okay. Pour la plupart. Après, je ne les connais pas tous. Je sais qu'il y a Chris Rock. Chris Rock, je sais qu'il est noir. Il y a Alan Carr. Alan Carr, je crois qu'il est blanc, Alan Carr. Il y a plein de gens qu'on va découvrir. Donc, ce que je vous propose, c'est quelle est la chute de la blague ?
Ok.
Et c'est à vous de trouver la chute de la blague. Je vous donne la prémisse.
On n'a pas la prétention d'être à leur niveau, mais...
Non, mais attends, ce qui est marrant, c'est qu'on va trouver d'autres chutes. C'est ça qui va être marrant.
Super.
Est-ce que vous voulez jouer à ce jeu déjà ?
Ouais.
Ça vous dit ou pas ? Vous êtes chaud ? Navo, tu peux jouer. Hein.
Moi, je peux jouer, sauf s'il y en a que je connais. On dit que si on la connaît...
Ouais, voilà. Si tu la connais, tu dis...
Historiquement, on dit rien.
Exactement. Voilà. Vous êtes prêts, les gars ?
Ouais.
On va jouer à quelle est la chute de cette blague ? Première blague de Bobcat Goldthwaite qui dit « Si jamais vous me voyez me faire taper par la police, s'il vous plaît,
filmer que je puisse empocher des sous. »
Alors là, c'est plus une revendication.
Ouais. Non, c'est marrant que je puisse empocher des sous.
Bah, si quand tu regardes l'affaire de la police. Ça
C'est pas loin. C'est pas loin.
Alors, ah ouais.
Comment il s'appelle
celui si jamais vous me voyez
tabassé par la police.
O.J. Simpson.
Rodney
King.
Rodney King. Si jamais vous me voyez me faire taper par la police, s'il vous plaît,
appelez la police.
N'appelez pas la police.
N'appelez pas la police, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Ça, appeler la police, c'est marrant aussi.
Alors, ça doit être un truc genre n'intervenez pas et après il y a une raison.
Non, c'est il faut faire quelque chose et ensuite venir l'aider.
S'il vous plaît.
S'il vous plaît.
Aller chercher des blancs pour nous séparer.
Je pense que c'est ça.
Non.
C'est un truc comme ça, non ?
Si jamais un jour vous pouvez me faire.
Bah, moi j'ai déjà des bonnes réponses. Je vous donne l'angochard.
Attends,
c'est un défi.
Donne un indice, donne un léger indice parce qu'en
fait,
il
faut poser quelque chose et venir aider.
Pose ton gun et viens m'aider.
Ouais, non. Attends. Mais c'est un truc, exactement.
Si jamais vous me voyez me faire taper par la police, s'il vous plaît. Attends.
Dites à un blanc de venir m'aider.
Non, en fait, je pense
il
que
était
c'est
pas loin à mettre tout à l'heure. Il était pas loin.
Pose ta caméra et viens m'aider.
Voilà.
Ah, est-ce que tout le monde filme ouais.
Voilà. Pose ton téléphone et viens m'aider.
C'est une blague de Bobcat Goldthwaite. Ouais. Okay. Bonne vanne.
Ouais. Bonne vanne. Ouais. Moi, j'aurais plus vu le truc de Rodney King filmé. Je vais prendre de l'oseille.
Ouais, c'est marrant aussi. Ouais. Une prochaine, c'est de Jeff Marder. Il dit on vit à une époque où une pizza
arrive plus vite que l'ambulance.
Que la police.
Que la police.
Que la police. Oh. Ah ouais, je suis con. La blague, je la connais.
Arrive plus vite chez vous que la police.
Mais ouais, j'ai l'impression que c'est une blague. J'ai l'impression que c'est une blague dans l'air, celle-là.
Ouais, c'est une blague de Jeff Marder, ouais, tu vois. C'est cool, c'est flatteur pour lui. C'est le mec, il a tellement une bonne vanne que c'est devenu une vanne
c'est
dans l'air.
Une blague de tout le monde.
Une vanne de Dennis Miller qui dit « Une récente étude montre que tu as plus de chances de te faire tirer dessus par un flic. » Trois petits points. Finissez cette vanne.
Qu'à la guerre.
Ouais.
T'as plus de sens de se faire tirer dessus par un flic
que de tirer sur un flic.
C'est une caractéristique du flic. C'est un adjectif qualificatif du flic.
Tu as plus de chances de te faire tirer dessus par un flic raciste
que par un keuf.
Ouais.
De par un flic raciste que par un raciste.
T'as plus de chances de te faire tirer dessus.
C'est beaucoup plus drôle que ça.
Que par un flic. Que par un mec.
C'est moins dur.
C'est-à-dire que t'as beaucoup plus de chances
de
te faire tirer dessus par un flic nanana. C'est ça, et c'est juste l'adjectif du keuf.
Un flic nanana, si nanana.
T'as beaucoup plus de chances de te faire tirer dessus par un flic raciste si t'es noir.
Ouais, moi c'est à ça que je
pensais. Ouais, mais ça c'est un peu deep, c'est beaucoup plus léger.
Bah, elle est tellement évidente qu'elle devient un peu marrante.
Ouais.
Il y a une étude qui montre.
T'as plus de chances de te faire tuer.
Une récente étude montre que t'as plus de chances de te faire tirer dessus par un flic nanana, si nanana.
Par un flic bourré, c'est ça ? Par un flic bourré.
Par un flic armé ?
Ouais, c'est.
T'as une étude par un flic en service.
Si, il est bourré.
Non, t'as plus de chances de te faire tirer dessus par un flic raciste que par un flic armé.
T'as plus de chances de te faire tirer dessus par un flic qui a un flingue que par un flic qui a pas de flingue.
Oh putain.
Ok, Langochard.
Ouais,
donne juste la première.
Une récente. Ah, par un avant flic obèse, ouais. Si.
Si tu te mets à courir.
Ouais.
Ah, Tu
nous as enlevé la vraie prémisse. Ouais, ouais. Toi, là, il a trouvé direct.
Tu allais me laisser le obèse.
T'as dit, alors, devinez, tu as plus de chances
Le mec, il manquait des éléments.
Ça me paraissait tellement obvious après, je me suis dit, bon, je vais essayer de compliquer un peu. Mais voilà, j'apprends. Une vanne de Chris Rock maintenant. J'étais dans ma voiture, un policier m'a demandé de me garer sur le bas-côté. Il m'a engueulé tellement fort, j'ai cru que...
Je la connais.
Il m'a engueulé tellement fort,
j'ai cru que...
Que c'était ma mère.
J'ai cru que c'était la radio. Il m'a engueulé tellement fort. J'ai cru... Un truc de radio, moi, j'aurais fait... Parce que le volume, quoi, c'est à ça que je pense.
C'est beaucoup plus sournois que ça.
Mais j'ai cru que j'étais en tort.
Ouais. C'est un truc comme ça, ouais. Mais en tort par rapport à quoi ?
La prémisse a un intérêt.
J'ai cru que je l'avais insulté.
J'étais dans ma voiture, un policier m'a demandé de me garer sur le bas-côté, il m'a engueulé tellement fort, j'ai cru que...
Fallait que je redémarre.
Quoi ?
Fallait que je redémarre.
Non.
Que j'avais pas coupé les moteurs.
Non. La musique.
Non.
Tellement fort, il m'a engueulé tellement... J'étais dans ma voiture.
C'est un truc par rapport à lui-même. Il s'est dit, bah, merde, ils ont forcément raison.
Que j'ai cru
que j'avais pas le permis. J'avais fait une infraction.
Ouais, c'est ça. Mais quelle infraction ?
J'avais grillé un feu rouge.
Non, encore plus bête que ça.
Que je l'avais rentré dedans, que j'étais en excès de vitesse, que je m'étais mal garé.
La prémisse.
J'étais dans ma voiture.
Ouais.
Que c'était pas ma voiture.
Ah, que j'étais, ouais. Ouais, c'était ma voiture.
J'avais volé ma propre voiture.
Ah, ouais, elle est bonne. Hein. Elle est bonne. Ma cliente, c'est tellement fort, j'ai cru que j'avais volé ma propre voiture. Ah, ouais, j'ai cru que j'étais dans une. Ouais, dans
j'ai
ma
cru
voiture
que j'avais volé ma voiture.
Ouais, et une dernière.
J'avais volé ma voiture, ouais.
Une dernière vanne d'Alan Carr, c'est j'étais en train de rentrer tranquillement du travail dans ma voiture. Un policier m'a demandé de me mettre sur le bas-côté. Il a tapé à ma vitre et je lui ai dit
« Je peux vous aider ?»
Alors, Alan Carr, Attends, tu peux répéter le début de la phrase.
Bien sûr, j'étais en train de rentrer tranquillement
c'est
du boulot.
C'est qui ?
Hein ?
Non, et je lui ai dit « C'est
entrez.
Qui ?»
Entrez.
Non. Je lui ai dit « J'étais tranquillement en train de rentrer du boulot. Il y a un flic qui me demande de me garer sur le bas-côté. Du coup, je m'arrête. Il toque à ma vitre. » Et je lui dis, et c'est ça qui est drôle.
C'est ce qu'il lui dit là.
C'est ce qu'il lui dit qui est marrant.
C'est fou qu'il ait trouvé un truc drôle dans cette situation.
Il tape à ma vitre.
Bah ouais, parce que là.
Et je lui dis, c'est pas entrer ou c'est fermé.
Non. Je lui dis un truc vraiment. Tu dis, c'est marrant.
C'est combien ? Un truc par rapport.
Ah, elle est pas mal celle-là.
Un truc par rapport au parloir ?
Non.
Toc toc, il tape à ma vitre.
J'adore ce jeu parce que tout le monde est là, tout le monde se met en mode genre, ok, comment rendre ça marrant.
Il met sur le bas côté.
Il faut rendre ça marrant.
Il tape à ma vitre.
Il me dit de mettre sur le bas côté, il toque à ma vitre et là je lui dis,
je vous vois. Hein.
Ouais. Non.
Je vous entends pas. Je vous vois pas.
Il peut ne pas l'entendre parce qu'il est en train de faire un truc.
Et là je lui dis, attendez, je finis ma bière.
Après, un truc presque comme ça.
Attendez, je remonte mes pantalons.
Presque.
Et lui, je finis mon linge, je jette mon linge.
Un truc comme ça, en fait. Il
est clairement... Alors, attends, il doit y avoir une raison pour laquelle tu ne peux pas ouvrir ta fenêtre. Toute la fumée va s'échapper.
Non. C'est un truc qui est en infraction. Il est en infraction, mais...
Mais est-ce que, du coup, la blague, c'est qu'il y a une raison pour laquelle il ne peut pas lui ouvrir tout de suite la fenêtre ?
C'est ça, il peut pas parce qu'il est en train de faire un truc.
Mais est-ce que c'est parce que, par exemple, s'il est en train de faire un aquarium, il dit, si j'ouvre la fenêtre, ça va gâcher la fumée.
Attendez, je mets ma ceinture.
Non. Un truc comme ça. Mais c'est beaucoup plus.
Je sais pas comment on ouvre, c'est pas ma caisse.
Ah. Attendez, je cherche la clé.
C'est peut-être marrant, c'est marrant. Ça, c'est des attractions.
C'est, moi qui ai gagné la course.
C'est marrant aussi.
Ouais, il y a ce truc-là de. Je finis mon verre.
Ouais, c'est ce genre de délire-là, ouais.
Qu'est-ce qu'il a pris, lui ? Attends, vous voulez creuser encore un peu ?
Je finis mon rail de coke.
Je vous fais la vanne ? Ok. J'étais dans ma voiture, je roulais tranquillement, je revenais du boulot. Il y a un flic qui m'a arrêté, il m'a mis sur le bas-côté. Il est venu à toquer ma vitre et je lui ai dit « deux secondes, je suis au téléphone. »
Ah, ça. Putain, elle est tellement plus
simple que ça.
Excuse-moi, je suis au téléphone. Ouais. Bah ouais. Oh, tu vois pas, je parle au téléphone. Elle est bien.
Les gars, maintenant, je vous propose de faire un contrôle mental. C'est-à-dire que, Roman, je vais prendre contrôle de ton esprit, je vais te dire quoi penser et tu vas me répondre à quoi tu penses. Je vais te dire, tu vas penser à un nanin, tu vas me dire c'est quoi, et je vais te dire c'est quoi, tu vas me dire ok ça, mais il faut que tu agisses dans la seconde. Tu me parles que de choses spontanées, tu peux fermer les yeux si tu veux et tout, et Ahmed, tiens-toi prêt, tu vas participer au truc aussi, ok ?
Ok, il va révéler ton inconscient.
Je veux savoir, clac, comme ça en instantané, et je sais que t'es très bon en clac-clac, en tout de suite.
Ok, faut que je me mette un peu en... Ok,
t'es en tout de suite, c'est parti ?
Ouais.
Ok, t'es téléporté dans un endroit super agréable, t'es où ?
La plage.
Ok, il y a un animal à côté de toi, c'est quel animal ?
Une chèvre.
Il te dit un truc super profond, cette chèvre, elle te dit quoi ?
Est-ce que t'as un briquet ?
Derrière toi, il y a une porte, tu la prends, t'arrives où ?
J'arrive dans le ciel.
Ok, là il y a un objet donc dans le ciel. Qu'est-ce que tu détestes? Un truc que tu détestes, c'est quoi?
Un truc là, un parasol.
Un parasol? Ouais. Tu détestes les parasols?
Ouais, je trouve ça très moche. Je préfère les parapluies.
Ok. Et là, donc vu que t'es dans le ciel, il y a un de tes rappeurs préférés qui arrive. C'est qui?
Lampal.
Il ramasse le parasol et il dit quoi?
Vas-y, à plus tard, frérot. Moi, je voulais juste prendre le parasol.
En chantant une chanson. Et quelle chanson il part?
C'est beau la folie, c'est beau la folie.
Donc là, il y a Ahmed qui arrive dans le ciel, il chamboule tout, il dit un truc qui chamboule toute ta vie, c'est quoi?
Il me dit frérot,
non, Ahmed.
White Dream. Ah, c'est ouais. Ahmed, excuse-moi.
Ahmed dit un truc, qu'est-ce que tu dis? Vite, ouais. vite.
J'ai racheté une chicha.
Je dis j'arrive.
Bam, Roman, tu dormais en fait, tu te réveilles, t'es où?
Je suis sur mon canapé, j'ai encore fumé trop de terre, et il est 4h du mat et je vais marcher lamentablement vers ma chambre.
Il y a une meuf à côté de toi, c'est qui?
Je sais même pas. J'essaie de me souvenir de son prénom.
Tu sais, elle a quelle couleur de cheveux, là?
Elle est brune, c'est sûr.
Ses yeux, ils sont comment?
Probablement vert. Non, plutôt noisette.
Elle a pas de nez, elle a une bouche, tu lui dis quoi?
Elle a pas de nez, elle a une bouche, ouais. Je lui dis salut Michael, ça vaut quoi?
Elle te parle de son mec, elle dit quoi à ce moment-là?
Elle me dit que ça va être bizarre le moment où elle va le revoir et qu'il va devoir faire genre on n'a pas couché ensemble.
Et là, elle se transforme en un truc, c'est quoi?
Une boîte de conserve.
Du coup, tu crées un truc, c'est quoi?
Putain, je déteste le bœuf bourguignon.
Bam, tu te réveilles dans la salle de classe de ton enfance. Il y a ta prof, elle t'humilie, elle te dit quoi?
Elle me dit, t'es vraiment trop con. Hein.
Tu lui réponds quoi du coup? Avec une répartie puissante de ouf, tu lui dis, mais un truc, elle peut rien dire derrière.
Je lui dis, ouais, mais vous êtes une pute.
Et là, Ahmed rentre dans la classe, conclut l'histoire par un...
Bande de fils de pute.
Dans la bravo panique, les gars, bravo, sûr. C'était le premier contrôle mental qu'on a fait, bravo.
Ça fait plaisir.
Bah,
les gars, merci pour cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment.
Grave.
Ouais, c'était cool, bien rigolé.
C'est marrant qu'on ait un psy après qui analyse pourquoi la meuf s'est devenue boîte de conserve de bourguignon.
Ah non, mais il y a des trucs trop bizarres, c'est sûr, avec la chèvre. C'est sûr, des gens ils vont dire la chèvre, le démon.
Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi.
Il a vendu son âme.
Pourquoi la meuf s'est devenue une boîte de conserve? Je suis sûr que ça veut dire un queutru. Freud, il est là, il fait frère.
Ouais, moi je pense que c'est parce que.
Tu le veux la garder pour plus tard.
Je me dis, je viens de me lever, j'ai faim, quoi.
Est-ce qu'on fait un petit tour des actus avant de faire le tour des actus? J'aimerais que savoir, c'est un peu une tradition dans cette émission, est-ce que vous avez une chaîne YouTube que vous voulez recommander aux gens? Parce que moi je passe ma life en ce moment sur YouTube à regarder
Zapping Sauvage.
Zapping Sauvage, c'est quoi?
Zapping Sauvage, c'est des vidéos qui font souvent entre 2 et 6 minutes, tu vois, ça se consomme très bien et c'est des extraits de documentaires animaliers. Il y a tout.
C'est ta life.
Il y a tout, j'aime beaucoup.
On se retrouve 3h du matin avant de t'endormir.
C'est ta compilation porno à toi, quoi.
C'est exactement ça. C'est ma pornographie à moi.
T'as vraiment un truc avec les animaux. Hein.
Ah, mais c'est grave. C'est très, très grave.
Vraiment, t'es fasciné par ça.
Ouais, ah ouais, fou. Moi, ça m'arrive très, très souvent. Je connais tout. Il y en a, je vais apprendre aucune info.
Non, mon père, il regardait ça beaucoup avant qu'on était petit. Mais je pense qu'il n'en faisait pas les mêmes raisons. Son raisonnement n'était pas le même que le tien, je pense. Ça lui donnait des idées pour nous.
Pour nous.
Pour nous taper, quoi.
C'est pas mal ce qu'il fait, Laurent Houtan, avec sa branche.
Le lion, il a des vraies techniques.
Le lion,
ça, des fois, je voyais mon père, il était caché derrière le rideau comme ça. Je voyais juste une patte.
Je vais me laisser les ongles, ça marche bien avec le lion. Ah putain. Ah, mais c'est pas con ce qu'il fait, je vais le mordre au cou.
Ah ouais, t'as une famille assez folle quand même, Ahmed, parce que t'as 12 frères et sœurs, c'est ça?
Ouais, on est 12 enfants. 6 garçons, 6 filles. Et moi, je suis tout en bas. Et
du coup, le plus vieux, à
quel âge? Il a 59.
Ah oui, ok. Donc
non, c'est pas mon en retraite.
C'est, ouais, c'est pas mon frère.
C'est comme un clone.
C'est comme un père. C'est un mec qui est là. C'est un pote de mon père, en fait. C'est un pote de mon père. Du coup, j'ai pas les mêmes discussions avec lui. C'est un pote de ma mère. C'est le seul de ma famille qui appelle ma mère par son prénom. Donc, c'est un pote de ma mère. Il a clairement passé un cap. Ah, il est bientôt à la retraite. Il a des enfants. Moi, j'ai des neveux qui ont des enfants. J'imagine, mon neveu, il a des enfants. Je suis déjà un oncle, je suis un genre de grand-père. J'ai pas l'appellation exacte de ça, mais je suis un grand-grand-oncle. C'est comme ça. Hein.
Incroyable. T'as une recommandation YouTube, d'une chaîne YouTube que tu kiffes?
J'aime beaucoup la chaîne de Jérémy Detlo.
Ouais.
J'adore.
Ouais. Très gaudri, Jérémy.
Très, très marrant.
Plus mec super cool.
Ouais, très cool. Et j'adore son programme Gus. Je sais pas si t'as regardé.
Non, j'ai pas encore regardé, mais j'ai vu passer les
super.
Épisodes. Ouais.
Tu
joues dedans? Tu joues dedans?
Non.
Pas,
non.
Pas encore?
Pas du tout, même.
Passe l'annonce.
Jérémy. Voilà.
Voilà.
On se comprend. Non, mais c'est un mec très.
Le Jérémy Detlo sur YouTube.
Okay. Même ses autres vidéos, il est très marrant, Jérémy.
Ouais, mais je débarque de toute façon. Ouais, c'est un mec vraiment, vraiment
tigeant. Vraiment cool. Ouais.
C'est un vrai tigeant.
Il était là, je pense, la première ou la deuxième scène que j'ai faite dans ma vie, il était là, Jérémy.
Ah ouais.
Je sais pas ce que ça vient rajouter là.
Moi, c'était une belle anecdote.
Mais je l'ai vécu.
Moi, la caméra, Jérémy,
c'était intense, c'était intense.
Je crois qu'il veut aussi.
C'était méga
intense. Ah ouais, je suis chaud, moi.
Navo, t'as une recommandation?
Pas spécialement, parce qu'il faut que j'en fasse à chaque émission.
Ouais, comme tu veux, t'as une chaîne YouTube que tu kiffes récemment. Ouais,
allez au pif.
Laisse doucement, doucement.
Ouais, allez voir Coco Voite, c'est un bon délire.
Ah, Coco Voite sur YouTube.
Parce que je suis fan des Parasites et de Ebim.
Chamé.
Et Coco Voite, c'est un sacré bon petit programme court. Je pense que si les gens qui ont aimé Bloqué, accrochez-vous un peu, parce que ça se passe dans une voiture, donc tu es moins d'accord.
Mais comme dans Bloqué, il fallait s'accrocher un petit peu, il fallait voir 3-4 épisodes pour comprendre les personnages et après tu rentres dans les
gens. Que là, c'est pas tout le temps les mêmes personnages, donc c'est Coco Voite, C-O-C-O-V-O-I-T.
Ok.
Coco Voite.
Et là, les derniers en date, ils sont incroyables. Ah bah, en fait, tu sens quand les gars ils arrivent à la troisième saison, ça fait 3 millions d'épisodes, ils ne savent plus quoi faire, c'est des gars dans des voitures.
Ouais.
Donc ça se passe en covoiturage, tu vois. Donc là, il y a des épisodes écrits en alexandrin, il y a des. Tu vois, tu te dis, ils sont partis dans des délires, quoi.
Ils ont bien raison. Je vais mater. Moi, il y a une chaîne, c'est Hugo Lisoir, c'est une chaîne d'astronomie. Sur l'espace et tout, mec, avant de te coucher, tu tombes dans l'espace. C'est tellement rien. Vraiment, ça me met bien. Et il sort des vidéos tous les mardis et tous les dimanches. Et c'est vraiment, vraiment fort. C'est les frères Lisoir qui font ça. C'est hyper intéressant. C'est hyper. Même moi, je connais pas grand chose sur l'espace. J'ai appris des milliers de trucs et ça me fait vachement de bien. Ouais. Donc, je vous la recommande à fond. Les gars, est-ce que vous avez passé un bon moment?
Très bien.
Chamé, n'hésitez pas à recommander cette émission à vos amis pour venir la faire.
Bah oui.
Ça nous ferait très plaisir de les recevoir aussi.
Bien sûr.
N'hésitez pas, fois mille. Navo, tu veux rajouter quelque chose?
Non, moi je suis content.
Moi j'ai passé un super moment.
À la boîte de concert.
Franchement, on a bien
analysé. Après, ça va sortir des folies.
Avant de partir, les gars, vous avez peut-être remarqué chez vous, en regardant cette émission sur YouTube, qu'il y avait des choses un peu bizarres à l'écran de temps en temps. Et bien en fait, c'est une énigme. Et à chaque émission, il y a une énigme à résoudre. Je vous laisse revoir l'émission, essayer de résoudre cette énigme. Et en fait, si vous réussissez à arriver là où on veut vous amener, et ben vous gagnerez des places pour mon spectacle. Roman, tu mets deux places pour ton spectacle aussi?
Ouais, je suis chaud, il faut que
t'es
je
en tournée,
là.
T'es ouais, en tournée.
Ouais,
je suis
en tournée. Ouais,
t'entends toute la France. Ahmed, tu mets deux places
avec
pour ton spectacle?
Ouais.
Tu mets un caleçon, Nabo?
J'en mets tous les matins.
Tous les matins. Mais ça fait plaisir en tout cas. N'hésitez pas à jouer, ça nous ferait kiffer de vous faire kiffer encore une fois. Bisous les gars, merci encore, vous avez été trop cool.
Merci.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Listen to this Acast show ad-free on Amazon Music with your Prime membership or subscribe wherever you get your podcasts.